Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, émission 138, une émission qui est dédiée à un jeu qui sort demain, si vous nous écoutez le mercredi, donc jeudi 15 avril. Il s'agit de Splinter Cell Conviction. Et forcément, après 5 premiers épisodes qui ont particulièrement bien marché, déjà plus de 19 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, une série qui a commencé en 2002, eh bien, nous allons effectuer un grand retour sur cette série, une saga donc dédiée à Splinter Cell. Messieurs, pour en parler autour de la table rouge laquée la plus incroyable d'Internet, eh bien, nous avons Julo qui porte très bien son petit téléphone à la bandoulière.
Tout à fait.
Il manque plus que le sac banane et tu seras au top. Il y aura aussi Traz, ça va Traz?
Ouais.
Formidable, il y a au taquet. Mimic qui chausse ses lunettes, on va apprendre plein de choses j'imagine. Ça va Mimic?
Bonjour.
Très bien, moins d'énergie que Traz.
Chausser des lunettes.
Ça manque un peu de patate.
Et Raon, bien évidemment, qui est avec nous. Alors, on va commencer.
Et Julien.
Voilà.
Bienvenue, Julien.
Merci. c'est vrai. Je suis là parmi vous pendant une petite heure. Effectivement, ce podcast, on dit d'ailleurs bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct sur la Gamecam, bien évidemment. Vous le savez, les enregistrements sont généralement le lundi soir, à horaire plus ou moins variable. Mais tout ça risque de changer d'ici quelques semaines, quelques mois, car peut-être que vous l'avez vu, mais Gameblog vous proposera dans quelques temps un abonnement premium avec plein de contenu extra. Ordinaire. On aura l'occasion d'en reparler, mais le podcast devrait en faire partie. Alors on va commencer avec cette saga Splinter Cell, par resituer un petit peu les choses. Cette saga Splinter Cell, on la doit à l'association entre Ubisoft d'un côté et les équipes d'Ubisoft Montréal qui ont développé l'intégralité des versions jusqu'à présent, en sachant qu'il y a Ubisoft Shanghai qui s'est occupé de certains portages, on y reviendra bien évidemment, et l'association avec la société de notre cher ami Thomas Leo Clancy Jr., de son véritable nom, né, et nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Merci. Puisque ce podcast est enregistré un lundi 12 avril, eh bien Tom Clancy est né le 12 avril 1947.
C'était évidemment fait exprès. Hein.
Bien évidemment, à Baltimore, dans le Maryland, c'est-à-dire un parc d'attractions. et donc notre ami Tom Clancy, qui n'est donc pas tout jeune, eh bien est donc à l'origine de cette série. D'ailleurs, il faut le savoir, pour information, il a participé à l'écriture du premier Splinter Cell sorti en 2002. Splinter Cell sorti sur Xbox dans un premier temps, et puis ensuite sur PS2 et GameCube en 2003. Alors dans ce podcast, on va bien sûr passer au crible tous les épisodes, quels ont été leurs spécificités, les avantages, les petites nouveautés, les innovations, l'évolution de la série, et puis on va revenir aussi sur pas mal de petits éléments clés, des petits détails qui sont peut-être assez méconnus. Pour commencer, par exemple, savoir, on reviendra dessus tout à l'heure, que notre ami Tom Clancy justement était opposé à ce qui est aujourd'hui l'une des marques de fabrique des Splinter Cell, c'est-à-dire le fait que Sam Fisher porte des fameuses goggles à triple optique, les fameuses optiques vertes là, qui sont vraiment la signature, tout à fait. Refais-le, Julo.
Ouais, tu fais tonnerre.
Voilà, qu'on retrouve parfois même dans d'autres, dans des films, etc. Je ne sais pas si ce sont très significatifs. Ouais, on ne fait pas mieux.
Non, on fait tout très mal.
Exactement, mais vous verrez qu'il y a plusieurs choses, petits détails assez méconnus sur la saga des Splinter Cell. Et bien sûr, on parlera aussi, il s'agit d'infiltration, de l'héritage d'autres titres, et en tout cas de l'opposition plus ou moins forte, avec des titres comme Metal Gear, Tenchu, Sif ou encore Hitman. Mais pour commencer, eh bien, on va faire les choses un petit peu dans l'ordre chronologique et donc repartir en 2002. On était sur Xbox à l'époque. Splinter Cell, premier du nom, voyait le jour et d'entrée, il apportait pas mal de choses. On va commencer, Raon, avec l'histoire de ce premier Splinter Cell.
Bah, ce premier Splinter Cell, c'est effectivement donc l'introduction de tous les personnages principaux de la série, à commencer par son héros iconique qui est évidemment Sam Fisher.
Qui, attention, hein, ce n'est pas son véritable nom.
C'est Samuel Fisher, c'est un diminutif, effectivement.
Qui est né en 1957, il a donc 53 ans, il est plutôt jeune comme héros.
Mais il est bien conservé quand même. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien faire ce qu'il fait à 53 ans, hein. Donc on verra. À mon avis, ça va être pas possible vu ce qu'on avale aujourd'hui, mais bon, c'est, c'est une autre question. Mais effectivement, donc, le premier épisode, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Splinter Cell, en fait, ça veut dire une cellule dissidente, en fait, en bon français. Ça désigne un programme d'entraînement spécial d'une sous-section de la NSA qui s'appelle Third Echelon,
Échelon 3,
en voilà, fait. Échelon 3 en français, qui est une organisation fictive, secrète, qui donc lance ce programme Splinter Cell dans un but en particulier, c'est d'entraîner des agents qui vont aller récupérer des informations sur place quand il n'est pas possible de les obtenir par des voies habituelles de hacking et compagnie, sachant que ça fait partie des thèmes très chers au cœur de l'ami Clancy, la guerre numérique, la guerre de l'information et les cyberattaques, etc. Enfin, tous ces trucs-là de hackers où on récupère des informations via satellite et connexion Internet. Et parfois, certains serveurs, évidemment, ne sont pas accessibles de l'extérieur. Donc il faut envoyer des agents sur place. Et Sam Fisher donc, est en fait le premier Splinter Cell, le premier agent Splinter Cell à être entraîné, qui sera donc la tête de proue de ce programme. Mm-hmm. D'autres suivront après. Il y a d'autres personnages au cours de la série qui sont passés par là, mais c'est lui le premier. Et dans ce premier épisode, donc en fait, il se retrouve à enquêter sur la disparition de deux agents de la CIA en Géorgie. Mmh. Au début, et évidemment le scénario à la Tom Clancy, bon, ça, on va pas tout le faire parce que c'est
à la Tom Clancy, et J.T. Perry, hein, oui, de chez Ubisoft, qui est vraiment l'auteur, hein,
c'est ça, c'est lui l'auteur
de
tout ce qui est script, etc. Clancy, en fait, pour ce premier épisode, aurait participé effectivement à l'écriture, et puis pour ce qui est de la suite, il a finalement apposé sa marque plus qu'autre chose sur les autres épisodes, sachant qu'il détient les droits via sa propre société qui s'appelle Rubicon, mm-hmm. de Splinter Cell, mais aussi de toutes les autres séries qui sont déclinées chez Ubi, c'est-à-dire Hawks, Ghost Recon.
Les marques n'appartiennent pas à Ubi.
Ça, c'est intéressant, voilà. Mais effectivement, il faut le souligner, Ubisoft, en fait, à l'exploitation de la licence de ces titres, donc, parce qu'on parle de Splinter Cell, mais en fait, le véritable titre, c'est, et c'est un peu chiant dans une base de données, oui. c'est Tom Clancy's Splinter Cell, et donc ça nous donne des titres assez formidables comme Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Box, par exemple.
Pandora Tomorrow.
Pandora ouais. Tomorrow, ouais. Je suis encore dans God of War, je suis désolé. Ouais. Mais ça fait des titres un peu longs, mais Tom Clancy est très présent, clairement.
Effectivement, et donc sans faire tout le scénario du premier épisode, donc il se retrouve finalement à la poursuite de ces deux agents de la CIA qui ont disparu des radars, l'un d'entre eux étant infiltré auprès du gouvernement géorgien. Et puis il court de fil en aiguille en passant par la Russie, la Chine, l'Azerbaïdjan, etc., à essayer de déterminer pourquoi ces deux agents ont disparu, et à se rendre compte très vite qu'en fait ils avaient évidemment découvert des informations capitales sur les velléités de génocide du président géorgien et d'autres choses par la suite qui pourraient déclencher éventuellement une guerre mondiale.
Voilà. Alors la marque de fabrique d'entrée de jeu, hein, de Splinter Cell, ça a été par exemple la vue épaule, qui a été repris par pas mal de titres à l'époque, mais à ce moment-là, c'est quand même assez, assez original. Et en tout cas, ça permet d'être totalement dans l'action à la troisième personne et d'intégrer une dimension un peu FPS, finalement.
Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, finalement, le seul le titre le plus approchant, déjà, l'infiltration n'est pas un genre particulièrement couru, en tout cas à l'époque. Il y a l'autre éternelle concurrence, c'est Metal Gear. Et Metal Gear adopte pas du tout ce type de représentation, puisque à l'époque on voit plutôt de dessus, avec une bonne vision de ce qui se passe à peu près autour du personnage. Et Splinter, lui, prend l'optique, on va placer le joueur au cœur de l'action, et c'est à lui, de, avec une caméra libre notamment, mm-hmm. de regarder bien partout ce qui se passe, de faire attention aux rondes, etc. Le seul équivalent qu'il y a finalement à l'époque, c'est la série Thief, qui est, elle, jouée plus sur PC, et qui prend un peu ce parti aussi de représentation.
Il y avait Tenchu aussi.
Il y avait Tenchu aussi, ouais, c'est vrai.
C'est les tout débuts de l'infiltration, quoi.
Voilà. La grosse force, finalement, de l'époque, c'est quand on a vu, en tous les cas, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte aussi, c'est qu'à l'époque, c'est de la Xbox première génération. Et elle doit, elle, vendre sa supériorité technique vis-à-vis des autres consoles du marché de l'époque. Et Splinter faisait partie de ces titres qui ont un peu scotché les joueurs à l'époque, parce qu'il avait tout bêtement un moteur graphique qui permettait d'avoir des ombres. Aujourd'hui on les regarderait, elles sont un peu taillées à la serpe et toujours très noires, etc. Mais on n'avait jamais vu ça à l'époque.
C'est
clair.
Moi, le jeu qui m'a fait acheter une Xbox. Hein.
Ah, carrément, moi je me rappelle quand il avait été dévoilé à l'E3, l'E3 avant sa sortie, quoi. On était juste tous mais carrément bluffés par tous les effets d'ombre et de lumière, par effectivement cette caméra au-dessus de l'épaule qui était franchement une première et qui a été reprise. Enfin, c'est une tellement bonne idée qu'elle est reprise dans à peu près tous les jeux qui existent aujourd'hui dans le genre. Et puis c'est juste, il y avait aussi tous ces effets, tu sais, avec les rideaux. T'entends, oui. Je me rappelle à l'E3, on voyait Sam Fisher qui passait à travers un rideau, voilà, en lamelle comme ça. C'était et la façon dont elle bougeait, ces lamelles, c'est super impressionnant.
Et la propagation de la lumière aussi. Oui. Et ouais. Jouer vraiment avec.
Mais jouer là-dessus, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux ombres, aux lumières, c'était un des. un des principes justement du jeu que les développeurs voulaient mettre en avant, c'est que effectivement bah, les ennemis voyaient les ombres, voyaient les trucs qui bougeaient, etc. Et donc en fonction de ça, ils
pouvaient te choper ou pas, quoi. Qui permettait de savoir si on était exactement. Bien caché ou pas en fonction de si on était totalement dans l'ombre
la présence ou pas.
Ou pas.
Exactement. Et ça tuait la gueule, franchement.
Ah oui, oui, c'est clair.
À l'époque, oui.
Mais on y reviendra tout à l'heure dans le podcast sur un débat assez intéressant, justement. Mais on disait que les jeux d'infiltration, il y en avait quelques-uns, les Tenchu, les Six, les Hitman. Mais c'est vrai que finalement, Metal Gear et Splinter Cell étaient les seuls qui jouaient sur de l'infiltration moderne.
Oui, avec du matériel, avec des gadgets.
Des gadgets.
Parce que ça aussi, c'était effectivement en dehors des goggles que tu as mentionné tout à l'heure, donc les fameuses trois lumières loupiotes avec lesquelles il se balade, qui lui fournissent la capacité d'avoir à la fois une vision thermique et une vision night vision, comme on dit, c'est-à-dire en faible vision luminosité, nuit. Vision nue. Voilà. Fisher avait déjà accès à pas mal de petits gadgets qu'on retrouvera plus tard dans la série, certains dans certains épisodes, d'autres qui sont repris ou pas. Mais il y a un certain nombre de gadgets vachement sympas tout au long de la série, comme les sticky caméras, les trucs que tu balances au mur et qui te permettent d'attirer les ennemis.
Puis il y avait pas mal de, on parle des gadgets, mais de subtilité dans le gameplay qui fait en sorte qu'il est très différent des autres titres. Déjà, la jouabilité en elle-même était plus calme. On devait avancer vraiment en faisant très attention. Je me rappelle aussi, il fallait crocheter les portes avec des sortes de mini-jeux où on devait jouer avec le stick et les vibrations. Mm-hmm. C'était plutôt bien vu. Mimic, c'était un épisode qui était pas si facile aussi.
Ah, effectivement, c'était assez difficile, mais c'est surtout ce dont je voulais parler, c'est l'opposition en fait avec Metal Gear, mm-hmm. où en fait Metal Gear est quelque chose de finalement plus rapide. Mm-hmm. C'est-à-dire que vraiment, tu es avec Metal Gear, tu te poses, tu regardes autour de toi, et puis tu agis, et tout s'enchaîne assez vite en fait finalement. Alors que sur Splinter, pas du tout. Le rythme est beaucoup 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 plus lent. Mm-hmm. Donc tu t'arrêtes, hop, tu te mets dans un coin d'ombre, boum, tu regardes le gars de passer. En plus, c'était des couloirs, c'est ça qu'il faut voir aussi. Et donc tu prenais vraiment le temps de voir la ronde des mecs, et puis de lancer une stratégie pour pouvoir passer, quoi. Donc c'était un rythme vraiment très très lent comparé à MGS.
Et puis il y avait pas mal de petites scènes aussi qui étaient beaucoup plus rares finalement dans Metal Gear, où tu voyais les mecs discuter entre eux. Donc t'obtenais des informations aussi en parallèle. Il y avait
avec
des petites
doublages asiatiques absolument incroyables dans le premier épisode.
Très parodique, oui,
fait par les inconnus, je pense.
C'était un peu ça.
Les doublages sont faits par des Québécois en fait. Donc,
ah oui, des Québécois qui voulaient faire l'accent asiatique.
Mais je crois que c'est ça, hein, il me semble.
Mais déjà d'entrée de jeu quand même, ça avait une grosse différence aussi avec les Metal Gear, qui offrent un univers cohérent entier dans lequel on va se balader. On n'est pas, en tout cas à l'époque, hein, téléporté de différents lieux géographiques. Là vraiment c'était pas le cas. Là c'était des missions qui duraient une petite heure, et puis on partait, on allait en Géorgie, mais après on allait à Perpète les Oies. C'est bien dit ça.
Justement, dans la continuation de cette idée, en fait, t'avais comparé à Metal Gear, t'avais vraiment des personnages sur Metal Gear qui étaient complètement délirants. Alors que là, on reste vraiment dans la réalité, voire le plus accroché à la réalité possible, que ce soit au niveau des gadgets, au niveau des ennemis, ou au niveau de l'intrigue, etc. Quoi.
C'était plus de l'anticipation en fait. Il y a plus d'éléments SF, puisque dès le départ dans Metal Gear, par exemple, t'as le fameux ça lui a donné son nom d'ailleurs, le Mecha Metal Gear. Mm-hmm. Ils sont des robots, des tanks ambulants qui n'existent pas, entre guillemets. Splinter, il y avait une volonté d'essayer de rester cohérent par rapport à des choses qu'on savait allaient venir dans le matos utilisé par l'armée.
C'est la marque de Tom Clancy en fait.
Exact.
Voilà, c'est de l'anticipation pure, quoi. Voilà. Et on sait qu'il a anticipé pas mal de choses, Tom Clancy, et qu'il avait,
comme le 11 septembre notamment. C'est dans ses bouquins qu'il a.
Comment vous regardez quand on dit 11 septembre?
Parce qu'on sait très bien que c'est de ta faute.
Si on parlait d'extraterrestres, on te regarderait aussi. Ou de grands complots internationaux.
Effectivement, le conflit en Géorgie, notamment avec la Russie, etc.
L'épuration ethnique
et tout ça.
Il l'avait
anticipé dans un de ses films.
De ses bouquins.
Voilà. Et du coup, effectivement, on dit qu'il fait un genre techno-thriller. Mm. Effectivement, il aime bien anticiper sur tout ce qui est technologique et tout ce qui est guerre froide, guerre thermonucléaire, qui va nous tomber sur la gueule, un de ces quatre. Donc, effectivement, il a vu juste à plusieurs reprises. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gouvernements américains qui ont voulu en savoir plus de comment il arrivait à savoir ça, notamment sur Octobre Rouge avec le sous-marin russe. Ça c'était assez hallucinant aussi, quoi. Donc voilà, donc je sais pas s'il a des amis dans l'armée un peu partout dans le monde, mais il a l'air bien renseigné quand même.
Mais il a l'air d'aimer l'armée surtout, monsieur Franti.
Et d'ailleurs c'est l'une de ses grandes déceptions.
Exactement.
En parlant
il
d'armée,
il n'a pas fait la guerre du Vietnam, et ça c'est un de ses grands regrets. Ouais. C'est dingue quand même, hein.
Oui, c'est vrai, effectivement.
C'est lui qui le dit, hein, mais bon, après, voilà, donc c'est assez étonnant, mais c'est un de ses grands regrets. C'est un fan de l'armée, un vrai fanatique.
Mm-hmm. Bon, très bien. On parlait de thriller, de s'inscrire dans la réalité, justement.
Thriller de Michael Jackson ? Ah non,
c'est non. Splinter Cell, d'entrée de jeu, dès le premier épisode, c'est sérieux hein, comme jeu. C'est oui. aussi ce que certaines personnes lui ont reproché, contrairement à des Metal Gear, par exemple, qui ont cette dimension fantastique, et donc finalement qui est vraiment un pur jeu. Là, c'est du gameplay, c'est du jeu, etc. Mais il faut faire très attention. Parfois, l'IA nous prend à revers de manière plus réaliste, finalement, que dans un Metal Gear, où il suffit de ne pas être dans le cône de vision des soldats, alors qu'on est peut-être à 2 mètres 2, ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. Je parle à l'époque. Hein. Mais c'est vrai que
c'est clair Splinter que tu n'as pas de radar. Ouais. Dans Splinter, tu n'as pas de radar. T'as pas, tu ne vois pas ce que les mecs voient, en fait. Tu ne peux pas anticiper autrement que par la vision du jeu lui-même ce que les gardes font. Mm-hmm. Donc, oui, c'est plus réaliste, entre guillemets, mais d'un autre côté, ça ne t'empêche pas quand même de passer à peine 2 mètres 2 sans qu'ils t'entendent ou bon.
Enfin, il y a quand même une incohérence incroyable dans les Splinter Cell.
Ok, vas-y. Bah, je sens un
chez nous. Comment est-ce que quand il est dans l'ombre totale, donc t'as la jauge au maximum, il y a ces 3 petits points verts qui apparaissent en permanence et personne le voit.
C'est attends, pas c'était pire que ça parce que dans.
Vu, c'est ça le problème aussi, c'est que justement tu pensais, on t'expliquait en gros au début que t'étais dans le noir et qu'en fait les mecs te voyaient pas. Et finalement, les gars arrivaient quand même à te voir.
Ah ouais,
il fallait les toucher. Hein.
Ouais, mais
pas forcément, pas non.
Donc c'était l'excuse facile. Mais non, c'est à cause.
C'est la notion entre bug et réalisme. Ouais. Tu avais toujours un doute. Ça m'a frustré. C'est ce qui a divisé pas mal de gens sur le plaisir qu'on tire d'un jeu d'infiltration. Et effectivement, deux clans qui se sont
formés.
Effectivement, deux factions, si tu veux. Il y a ceux qui préfèrent le MGS et ceux qui préfèrent le Splinter à cause de ça, en partie aussi.
Mais il avait aussi, et c'était fait exprès justement, parce que comme on était dans le noir total à l'époque sur cet épisode-là, quand on était dans l'ombre, pour voir le personnage, il était important qu'il y ait des éléments lumineux dessus. Et donc, ils avaient rajouté aussi dans son dos un petit écran LCD qui faisait de la lumière. Donc, on savait si on était de dos ou de face en fonction de ce qu'on voyait. Est-ce que c'était l'écran ou est-ce que c'était les trois loupiottes de la Google, quoi.
Et bah justement, puisqu'on parle de Google, Tom Clancy, comme je le disais tout à l'heure, était vraiment opposé à sa présence, en tout cas de Google à triple optique, puisqu'il disait justement, lui qui veut toujours coller à la réalité, bah que ça ne l'était pas et que normalement c'était soit une Google de vision thermique, soit une vision de nuit, mais associé.
Tu pouvais
tout
pas combiner les deux à l'époque.
Pas combiner. Ce qui à l'époque était vrai, ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Ouais. En gros, il fallait.
Il a mal anticipé alors pour une fois.
Oui, c'est vrai. Mm. Mais lui, il voulait justement qu'on traballe plusieurs paires. D'ailleurs, dans Metal Gear. Chacune, il y a toujours une Google de nuit, etc. Ce qui est aussi.
Sauf que t'as 30
aujourd'hui.
Millions de trucs dans ton inventaire, mais bon.
Dont un carton.
Ouais. Dont un carton.
et du coup, chez Ubisoft, on a argumenté un petit peu en disant que oui, mais enfin bon, en termes de gameplay, c'était quand même pas très pratique et voilà. Que ce serait plus simple. Et c'est vrai que c'était une entorse à la réalité de cette période-là, mais qui a fait, une fois de plus, la marque de fabrique de Splinter Cell. En parlant aussi de l'immersion des personnages, en VO, c'était Michael Ironside ouais. Qu'on a vu dans V ou dans Starship Troopers, qui s'occupait de la voix de Sam Fisher.
Ouais, gros acteur de second rôle, assez connu.
Une voix bien reconnaissable, hein, mm-hmm. bien sombre, bien grave. Et en France, c'est Daniel Beretta, la voix de Schwarzy, qui incarnait Sam Fisher. Et qui, je trouve, moi, perso, lui donnait quand même un aspect un peu bourrin, qui était peut-être pas forcément de bonne alloi.
Par rapport à Metal Gear, je dois dire, c'est quand même pas pire que la voix de Snake en France dans le premier opus de Metal Gear Solid.
Mais là, tu compares à de la catastrophe.
Oui, certes. Donc, non, mais c'est vrai que c'était pas terrible.
C'était pas la meilleure chose. Et puis, et ça, une petite pensée à Willow de l'époque de Joypad, Jean Santoni. Le mouvement le plus incroyable de Sam Fisher, c'était le split jump, l'espèce de grand écart qu'on pouvait faire dans un couloir pour surprendre ses adversaires. Mouvement qu'on ne retrouve pas dans Conviction, dont on va bien évidemment parler assez fortement en fin de podcast, puisqu'on a pu le tester, bien sûr. On vous dira un petit peu tout ce qu'on en pense, n'est-ce pas, Raon?
Oui, avec plaisir.
Je crois que c'est à partir du 2, ce mouvement dont tu parles, en fait.
Le split jump, oui, effectivement, ouais, il n'était pas dans le premier.
Deuxième, il n'était pas dans le premier.
Épisode, ouais.
Eh bien, autant pour moi. Néanmoins, ce premier épisode, qui était donc dans un premier temps une exclue Xbox, est finalement arrivé sur PlayStation 2 et sur GameCube. C'est d'ailleurs l'épisode qui, au cumulé, hein, selon nos chiffres, c'est quasiment le mieux vendu, hein, un peu plus de 5 millions d'exemplaires. C'est pas à chaque fois, c'est pas des cartons non plus absolument colossaux, hein, les Splinter Cell, mais c'est une série qui marche plutôt bien. D'ailleurs, c'est la troisième licence la plus vendue d'Ubisoft après Rayman et ses 22 millions d'exemplaires. Et la série des Rainbow Six, mine de rien, 20 millions d'exemplaires. Une autre série de Tom Clancy, bien évidemment. On passe à la suite. En 2004, juste pour préciser quand même que les versions PS2 et GameCube étaient clairement inférieures à la version Xbox, et elles avaient
ceci
été
dit,
très compartimentées.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à afficher autant de géométrie sur une PS2 que sur une Xbox, donc les niveaux avaient été réduits, il y avait certaines salles en moins, etc. Ceci dit, à l'époque où il est sorti sur Xbox, jamais on aurait imaginé qu'ils arriveraient à l'adapter avec toutes ces ombres, etc., sur les autres supports, et finalement ils ont réussi.
Ils ont réussi, c'était assez bien fait quand même.
Mais
c'était
pas mal. Il y avait beaucoup de temps de chargement.
J'avais testé à l'époque, ouais. Il était plus compartimenté, comme tu disais, mm-hmm. mais cela dit. Le plaisir de jeu, parce que moi c'est ce que je retiens un peu de ce premier Splinter Cell, on peut préférer effectivement Metal Gear, moi j'adore Metal Gear et tout, mais là c'était un autre trip, et voilà, la jouabilité elle était là, ce côté vraiment de pouvoir contrôler la caméra et d'agir tout le temps en douceur, etc., c'était vraiment super sympa, et ça marchait aussi bien sur les adaptations, mais d'ailleurs c'était Ubisoft Shanghai,
hein. Oui. L'adaptation,
ouais,
a
c'était
été...
le premier boulot de ouais. Ubisoft Shanghai, je crois,
après un jeu de Formule 1 dont je me rappelle plus le nom, mais
mais il l'avait quand même plutôt bien adapté,
4 mois seulement en plus pour convertir, finalement c'était un beau tour de force. Trazom.
Non, rien, je veux juste abonder dans le sens de Julo par rapport aux caméras. Ceux qui adoraient Metal Gear, effectivement, ils se sont peut-être pas retrouvés dans Splinter, mais moi qui suis pas forcément un super fan de Metal Gear, justement à cause de ces caméras qui me saoulent, effectivement avec Splinter, c'était vraiment un autre univers qu'on découvrait, et franchement là, niveau jouabilité, t'étais tout de suite dans le bain, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 15 ans. C'était assez simple de prise en main, quoi.
Alors 2 ans plus tard, en 2004, sort Splinter Cell Pandora Tomorrow, cette fois-ci sur Xbox, une fois de plus PS2 et GameCube, et une fois de plus, hein, la version Xbox était clairement au-dessus, hein, technologiquement parlant. Alors le jeu en lui-même, Mimic, était intéressant, il y avait pas mal de petites nouveautés, mais on reviendra après sur probablement la force de cet épisode, qui, elle, se situait au niveau du mode en ligne, qui avait été développé vraiment à part en France, et qui était absolument incroyable. Mais revenons d'abord un petit peu sur la campagne solo.
Alors la campagne solo, c'est surtout donc techniquement c'était effectivement une grosse baffe, ça c'est sûr, parce qu'en fait en plus il y a des niveaux ouverts qui ont fait leur apparition, donc même si c'était toujours sous forme de couloir, mais t'avais des niveaux ouverts, on arrivait dans la jungle, etc., et donc c'était effectivement, ça te sortait un petit peu de ce côté ombre et lumière, complètement, enfin de ce côté
intérieur,
ça, ouais, enfin
confiné,
confiné, donc c'était une espèce de bouffée d'air frais en fait, dans l'enchaînement des niveaux. Après, alors effectivement, ils ont agrémenté un petit peu le gameplay. Donc avec.
T'as du mal avec ton micro.
Ouais,
toi.
J'ai du mal. J'ai du mal à poser mes lèvres en fait sur le micro. C'est pour
non
ça,
mais regarde, t'as pas besoin. C'est juste de faire ça.
Non, mais j'ai pas le pouce assez long, moi. Ouais, ah. Ça.
Ça sert à plein de trucs, un pouce long.
Oui. Mais bon, nous parlerons de tout ça.
Ceci ne nous regarde pas.
Pandora tout
bref. Donc oui. Donc il y avait plein de petites agrémentations au gameplay. Donc Sam s'est pas mis à siffler. Enfin, il pouvait siffler pour attirer les gardes, par exemple, ce qui équivaut au toc toc de
Metal Gear.
De Snake, voilà, dans Metal Gear. Il y avait l'arrivée de la fibre optique aussi. Enfin, la petite caméra optique que tu passais sous la porte, ça avait impressionné tout le monde. Je me rappelle pendant les démos. Donc il y avait ça. Effectivement, le grand écart mural, me semble-t-il aussi, qui est arrivé, à ce moment-là.
Lié au fameux, c'est le fameux splint jump. En fait, tu pouvais faire une espèce de double saut. Tu sautais vers un mur et tu réappuyais sur le bout de ton saut et il se mettait en grand écart dans un couloir un peu étroit, et puis il pouvait donc laisser passer les gardes en dessous de lui et leur sauter dessus.
Mais c'était finalement, tu t'en servais pas tant que ça.
Moi je m'en suis servi beaucoup, moi j'adore faire des grands écarts.
Ouais. Bah écoute, non mais ça c'est encore un autre problème, ça ne nous regarde pas. Mais
dans le mode en ligne c'était pas mal.
Alors
d'ailleurs.
Ça ouais d'accord, mais globalement en solo, ça servait en gros à accéder à certains endroits, effectivement à laisser passer certains gardes, mais c'était pas supra utile, enfin en tout cas dans mon souvenir ça l'était pas vraiment.
En tout cas, ça avait la classe.
Tout le temps envie de le faire dès
voilà,
que c'était possible.
Ça avait la classe, effectivement, c'était vendeur, j'ai envie de dire.
Et c'était toujours compartimenté en mission.
Tout à fait, ouais. Il y en avait 8 dans mon souvenir, je crois. Et effectivement, tu progressais de l'une à l'autre. Et donc, il y avait aussi une amélioration du système de visée, parce que c'était un des problèmes du premier. C'est-à-dire qu'on avait, c'était pas toujours facile de viser dans le premier. Et là, ils avaient mis une comment on appelle ça ?
Une visée laser.
Voilà, une visée laser qui était beaucoup plus facile à jouer. Et voilà. Alors, il y avait aussi, oui, les niveaux d'alerte pour les gardes. Donc du coup t'avais 3 niveaux d'alerte pour les gardes, et en fait les mecs, à chaque fois qu'ils voyaient un corps, une ombre, quelque chose qui faisait qu'ils pouvaient envisager ta présence, à ce moment là ils se mettaient une armure sur eux pour être plus balèzes, ils devenaient donc beaucoup plus balèzes à tuer, et ça allait jusqu'à un troisième échelon. Oh putain, quand on s'est bien passé ça, oh là là. Et donc ce dernier échelon en fait annulait carrément la mission, donc tu perdais la mission en fait, donc c'était assez frustrant.
Donc voilà, il fallait éviter le plus possible de faire monter ce niveau d'alerte, sinon c'était game over direct. Quoi. Donc ça restait encore vraiment centré sur l'infiltration.
Et au bout d'un certain temps, évidemment, quand c'était au niveau d'alerte 1 ou 2, si tu restais planqué et que tu te faisais pas remarquer, évidemment le niveau d'alerte redescendait. Donc voilà, alors donc c'est un jeu qui restait quand même, même si les environnements étaient plus ouverts, c'était quand même toujours super linéaire. C'était en gros, t'avais.
Mais finalement, c'est une marque de fabrique de la série globalement. Hein.
Ouais.
Il y avait pas. Il y a toujours plusieurs possibilités, plusieurs chemins et plusieurs trucs à voir. Mais...
Pas dans le 1 et le 2, hein, justement, c'est pas trop. Enfin, hein, dans le 2, moi je me souviens effectivement, t'arrivais, il fallait être au bon endroit, appuyer au bon endroit sur le bon bouton. Mm. Et voilà quoi. C'était pas.
Mais tu pouvais toujours utiliser tes gadgets comme tu l'entendais.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Progresser en fait suivant ta propre méthode en choisissant certaines choses.
Ouais, mais alors c'était sandbox dans un couloir quoi.
Ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà, c'est à peu près.
Alors après, effectivement, Pandora Tomorrow, c'est quand même le. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'on a tous retenu le plus.
Ah bah, moi, c'est simple. Hein.
C'est le mode en ligne.
Je ne sais pas de quoi Emmerich me parle, car je n'ai joué
que au mode en ligne. Ouais.
Alors, mais justement, on peut peut-être faire un petit passage par le scénario si vous voulez pour alors, la continuité du solo. Donc, moi, je vais faire beaucoup plus court que toi.
Oui.
Merci, Mimic.
Donc, en gros, il y a les États-Unis qui installent une petite base d'entraînement au Timor oriental. Et ça a tendance à énerver.
Très sympa
tout,
hein,
tout,
le Timor oriental, surtout en juin.
Tout à fait, en Océanie, un endroit magnifique, j'imagine en tout cas.
Bien sûr.
Et donc du coup, la construction de cette base pose des problèmes. Il y a une espèce de vent anti-américaniste qui se propage. Et donc du coup, il y a un espèce de révolutionnaire qui s'appelle Souadi Sodono. qui est donc anti-américaniste à fond, qui prend en otage les gens de l'ambassade américaine au Timor oriental. Voilà. Et du coup, pour régler le problème, on envoie Fischer parce que c'est ce qui est plus efficace.
Il pète des genoux, quoi.
Voilà. Donc tu vois, voilà, hop, terminé. Moi, j'ai fait court.
C'est vrai, c'est pas mal. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement un pitch. En fait.
Voilà, c'est ça.
C'est juste on aborde parce que non, mais c'est vrai que les scénarios de Clancy sont très compliqués avec une géopolitique qui part dans tous les sens. Et
trop compliqué, un peu pour rien d'ailleurs.
Oui, c'est vrai parce que finalement, on a du mal à les retenir en fait.
Mais n'oublions pas, et ça compte aussi pour les versions PS2 et GameCube du premier Splinter Cell et donc de cette version Pandora Tomorrow, que c'était l'une des premières fois où Ubisoft faisait appel aussi à des talents d'Hollywood, en l'occurrence un Français, hein, Emilio Siri, qui avait réalisé Need Gap, pour faire les cinématiques qui avaient été rajoutées après dans certaines versions, les versions PS2, etc. Et qui était quand même assez impressionnante. Hein.
Ça me dit quelque chose
vous
en tous les cas.
C'est l'époque, et les musiques avaient été refaites avec un orchestre philharmonique, etc. Enfin, c'était l'ambition vraiment, et l'une des premières fois pour Ubisoft, de rapprocher jeux vidéo et esprit plus cinématographique.
Hollywood
style, comme on le voit aujourd'hui, vachement plus avec Assassin's Creed.
Et donc, mais pendant tout le monde, c'était surtout le multi.
Voilà,
comme tu l'as si bien dit, Julio, effectivement, c'est le multi. Hein. Pour moi, c'était une de mes plus grosses expériences multi. Alors
pour nous aussi, je pense, Julo, moi et même Willow, dont on parlait tout à l'heure, on y a pas mal joué en ligne.
C'était absolument effrayant. Donc le concept de base, il est simple. En gros, ça se joue à 4, donc avec deux joueurs de chaque côté. T'as des espions qui peuvent s'infiltrer. Le truc important, c'est qu'ils ont une vue, eux, à la troisième personne, donc ils peuvent voir complètement autour d'eux et tout ce qui se passe autour d'eux. Et
Pareil qu'en fait que le solo, ils ont la même ergonomie que le solo.
Et ils n'ont pas d'armes pour vraiment tuer les mercenaires. Ils peuvent les tuer, mais d'une manière très spéciale sur laquelle on va revenir. Et les mercenaires, eux, par contre, qui gardent donc des endroits, en fait, des stations sur lesquelles, les espions doivent appuyer, pour résumer, c'est ça. Eux sont en vue à la FPS, donc à la première personne, et donc ne voient pas ce qui se passe derrière eux. Et donc, eux, par contre, ont des armes pour tuer. Voilà. Et donc, partant de ce principe-là, tout le monde voulait incarner les espions, parce que tu avais finalement plus de possibilités, plus de liberté. Tu avais des choses très intéressantes aussi avec les mercenaires, mais que tu finalement, d'abord, tu allais vers l'espion, naturellement.
Mais c'était un magnifique jeu de pierre, feuille, ciseaux, parce que tu avais donc, toi en tant que spy, tu avais ta vision thermique et ta vision de nuit. Par contre, les mercenaires pouvaient te voir, eux, avec une vision spéciale, dès que tu activais ta vision à toi.
Voilà, c'est ça
qui les spies qui se mettaient en vision de nuit ou en vision thermique étaient automatiquement plus visibles de la part des mercenaires. Qui passaient leur temps avec leur pauvre lampe torche à essayer de trouver où étaient les spies.
T'avais des gadgets de fou pour arriver au bout de ta mission, mais dès que tu les utilisais, t'étais susceptible d'être repéré. Et à partir du moment où t'étais repéré,
tu te prenais, et puis le problème c'est que t'étais pas très résistant justement. Donc
à un certain niveau, moi j'ai, enfin à ce moment-là vraiment, comme pour Tekken, je vais me la raconter un peu, mais vraiment avec des gars de la profession, on a fait des parties.
Mais avec moi,
à l'époque, aussi, mais j'ai fait, je me rappelle notamment d'une.
Les autres jouaient mieux.
Pour lui, t'es pas un gars.
Je jouais avec toi, je me rappelle, mais je veux dire en espion, tu pouvais très bien en te baladant autour d'un mercenaire, tu arrivais à un certain niveau à dominer totalement le mec et le mec ne pouvait pas
t'avoir. Pour moi, c'est le truc qui a qui a complètement foutu le jeu en l'air.
Mais tu pouvais même les assommer facilement et, voilà. Et donc les autres se retrouvaient en dehors de la partie pendant de longues secondes, ce qui est quand même un peu pénible. C'est-à-dire que tu te fais mettre, tu sais pas où est le spy, il arrive derrière toi, t'as pas le temps de le voir, machin, tu te fais tordre le cou.
T'as un truc horrible justement avec ça, c'est qu'en fait tu pouvais donc taser le mercenaire en tant qu'espion, et à ce moment-là, donc le mec était bloqué pendant un moment, tu arrivais derrière lui, déjà que t'étais frustré parce que tu voyais pas le gars, et là tu te faisais choper par derrière, donc les mecs te tordaient le cou du mercenaire, et là c'était horrible parce que avec le micro, tu pouvais glisser à l'oreille du mercenaire, t'es mort mon gars, par exemple. Hein. Et ça c'était atroce parce que le gars souffrait en mercenaire déjà pour essayer de trouver les gars, et là d'un coup il entend derrière lui, c'est fini, et là alors il peut même pas répondre.
Ça aurait été développé sur Wii, t'aurais eu des choix de messages avec une autre partie. Et là, tu pouvais dire ce que tu voulais.
Bien joué.
Ça, t'imagines pas, pour l'époque, c'était des petits features extraordinaires, quoi. C'était juste fabuleux.
Il y avait d'un côté des acrobates et de l'autre les plus bourrins, quoi.
Voilà. Et alors, t'avais des trucs géniaux, genre tu.
Mais t'avais de la stratégie dans les deux camps. C'est ça.
Oui, parce que les mercenaires aussi avaient leur propre gadget. Ils pouvaient poser des mines, ils pouvaient faire certains trucs, etc.
Il y avait une vraie stratégie. Ils servaient des caméras aussi. C'était plus dur de jouer la défense, donc les mercenaires, que l'attaque.
C'était surtout moins sexy. La plupart des joueurs voulaient jouer les spies.
Ouais, t'avais envie de faire l'acrobate.
Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, vraiment, la partie solo avait été développé du côté de Montréal, chez Ubisoft Montréal, et la partie multijoueur, c'était à Annecy, chez Ubisoft Annecy, et c'était finalement deux jeux radicalement différents dans le même package, et ils avaient vraiment pensé dès le début le multi comme un vrai jeu à part entière, chose que, et finalement dans le domaine de l'infiltration, il a fallu très longtemps, et même encore aujourd'hui,
on va en reparler, mais dans Conviction, il n'y a plus de mode équivalent, par exemple. T'as pas de véritable opposition entre les infiltrants et les infiltrés, quoi. Et ce qui était bien, effectivement, aussi par rapport au développement séparé, c'est que finalement, à l'époque, c'était extrêmement rare d'envisager le multi comme un développement séparé avec une équipe complètement différente dédiée exclusivement à ça, et c'était évidemment la bonne approche qui a été reprise par la suite pour plein d'autres projets, même pas dans l'infiltration d'ailleurs.
Julo,
vas-y. D'accord. Non, je voulais juste vous rappeler au bon souvenir de cette époque où on découvrait les premiers DLC. Si je me souviens bien, Splinter Cell Pandora Tomorrow, c'est l'un des premiers jeux sur Xbox à avoir offert du DLC, et je dis offert car à l'époque, évidemment, il était inconcevable, voilà, qu'on puisse vendre un bout de jeu en plus, et donc c'était offert, et ça fait partie de cette époque en fait sur la première Xbox où on nous filait des contenus comme ça pour nous habituer à la consommation de contenus supplémentaires à télécharger, etc.
Oui, et puis c'était censé être la force de Microsoft à l'époque, ils avaient besoin de justifier.
Et donc Pandora Tomorrow, on avait téléchargé, je sais plus si c'était des niveaux.
Il y avait eu des niveaux, qui avaient été portés après même sur PS2.
Et c'était parfaitement gratuit.
Ouais, non, tout à fait. C'était assez incroyable. Et on pourrait s'étendre encore longtemps sur ce mode multi qui est exceptionnel. Donc il y avait trois modes de jeu très particuliers. Enfin, particuliers. Donc le premier, c'était la neutralisation, sur lequel tu avais les espions qui pirataient les terminaux. Et donc le classique,
oui, donc qui devait rester un certain temps en place pendant tout le piratage du terminal sans se faire gauler.
Et évidemment, ça déclenchait l'alarme lorsqu'il y avait ce
ah oui, ça c'était génial. Mais oui, ça c'était génial. T'avais tous les mercenaires qui étaient avertis, qui disaient oh putain, ils ont réussi à en avoir un.
Alors t'avais des techniques de fou parce que t'avais plusieurs points de justement. Donc du coup, à deux, tu pouvais en déclencher un pour attirer les mecs, te barrer, pas le finir, et en fait l'autre espion on déclenchait de l'autre côté l'autre truc. Donc c'était juste génial.
Tu pouvais aussi te mettre à deux au même endroit, et quand les mecs arrivaient, l'autre pouvait assommer.
Ah oui, voilà, c'était. Parce qu'en fait, en tombant dessus, exact, tu me le rappelles.
Tu les assommes,
tu l'assommes et tu pirates peinard.
Exactement. Donc, voilà. Alors, on avait aussi l'extraction. Donc là, les espions vont récupérer une fiole. Et donc, ils doivent ramener cette fiole à un endroit particulier. Et il se trouve que quand ils se déplaçaient trop rapidement avec cette fiole, elle était visible. Je sais plus par quel biais exactement, mais je crois qu'il était visible par les.
Je crois que c'était avec leur même vision qui leur permettait de voir les spies quand ils utilisaient leur gadget.
C'est possible. Bref, fallait ramener ça à un endroit. Donc voilà. Et le dernier, c'était encore du piratage de terminal par les espions. Sauf que lorsque ça se déclenchait, les mercenaires pouvaient annuler en fait le piratage. Donc ils avaient un temps limité pour arriver sur la borne et hop, appuyer dessus pendant un certain temps. Ce qui permettait en fait de créer des pièges, puisque après tu pouvais revenir en tant qu'espion et achever le mec. Voilà. Et donc moi je conclurai là-dessus en tout cas en disant que c'était encore aujourd'hui le meilleur jeu de cache-cache que j'ai pu voir sur console. Mais vraiment, c'est le terme exact.
Même carrément, moi, enfin pour ma part, l'un des meilleurs jeux en ligne, quoi.
Ouais, c'était une expérience multi vraiment extraordinaire.
Une des premières, elle était incroyable, incontournable, j'ai envie de dire.
Et ben effectivement, c'était de bons souvenirs. C'était en 2004 sur Xbox, PS2 et GameCube. Un an plus tard, ça allait très très vite. Et je me rappelle de la claque qu'on s'était pris à l'E3 de voir Splinter revenir aussi rapidement, et en plus avec vraiment un tout nouveau moteur graphique. L'arrivée de l'épisode Chaos Theory, qui franchement, visuellement, était très impressionnant. Mais pour le reste, peut-être un peu plus décevant. Traz, épisode Chaos Theory. Est-ce que ça a semé le chaos chez les joueurs?
Ça,
j'en en tout cas, c'est pas l'épisode qui s'est le mieux vendu, très clairement. Hein. Seulement 2 millions d'exemplaires.
Non, effectivement. Mais alors, le scénario, vite fait, hein, c'est des. Bon, c'est assez bizarre parce que moi, les scénarios, chaque fois, ils me font mourir de rire. Donc, bref. Donc, il y a un virus informatique qui pousse le Japon à se doter d'armes. D'armes hautement nucléaires, ouais. Alors qu'ils n'ont pas le droit selon les accords de la Seconde Guerre mondiale, etc. etc. Donc la Chine et la Corée du Nord flippent leur mère. Mm-hmm. Et du coup, eux, ils commencent à se dire tiens, si nous aussi, on allait faire un petit peu peur, notamment à la Corée du Sud. Donc voilà. Et ensuite, la Corée du Sud, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son allié américain qui envoie un seul homme. Sam Fisher pour régler tout ça dans le monde entier, voilà.
Toujours les mêmes.
Voilà, c'est ouais. Super pitch. Mais donc après, à proprement parler du jeu, j'avoue que je suis pas super expert. Cette version-là, j'en ai de très vagues souvenirs. Il y avait plein de nouveaux mouvements.
On pouvait s'accrocher sur des rambardes, prendre les personnages par au-dessus, les faire tomber, les jeter. On se rappelle par exemple dans les premiers niveaux du niveau avec le phare. Et vraiment,
avec la pluie était incroyable.
Graphiquement, ça avait vraiment franchi un cap. Hein,
Tout à fait.
Ça a toujours été le cas. Hein, Mimic Splinter, c'était une des grosses marques. De fabrique de la saga.
C'est vrai.
Et je crois qu'il possédait un couteau aussi.
Ah oui, et il pouvait donc ouvrir en fait certaines tentes ou des trucs en tissu effectivement pour se créer lui-même des passages. Mmh. C'était un des trucs.
Ça faisait partie des épisodes où c'était le plus ouvert aussi. Il y avait comme dans le précédent volet.
Ça restait quand même
En extérieur, mais t'avais un peu plus de choix au niveau de la profondeur des niveaux. Mais du lot.
La principale innovation de Chaos Theory, c'était quand même le mode coop, et c'est la première fois qu'il apparaît. Donc ça permettait
un écran splitté, effectivement.
Ouais, t'avais l'écran splitté où tu pouvais jouer en ligne, mais en tout cas ça permettait. Alors c'était seulement 4 missions, donc c'était pas non plus énormissime, mais c'était juste super trippant de pouvoir se faire, tu vois, après le Pandora Tomorrow où tu pouvais faire vraiment du versus, du compétitif, quoi, en équipe. Là, vraiment, tu faisais équipe pour faire de la coop pure et dure sur des niveaux qui ressemblaient au niveau du solo, quoi. Mm-hmm. Donc c'était pas.
Non,
c'était...
apparemment, il me semble que c'était des nouveaux niveaux. Hein.
C'était
c'était une campagne séparée, mais ils étaient conçus comme la.
C'était 4 missions à part. Mais ça fonctionnait comme le solo. Et donc, c'était la première fois qu'on jouait en coop avec 2 agents à Splinter Cell. Quoi.
Ce qu'ils ont repris dans Conviction.
Hein. Ouais, et donc, ça, c'était une belle avancée quand même.
C'est vrai.
T'avais
Mimic.
Des petits mouvements bien sympathiques aussi, comme la fameuse courte échelle, qui, je me rappelle, qui impressionnait tout le monde, où effectivement, tu pouvais lever ton partenaire. Mmh. Et ça, c'était plutôt pas mal aussi. Tu pouvais.
T'aimes bien lever ton partenaire, toi. Hein.
Ouais, oh, ça y est, c'est reparti. Hein.
Qu'est-ce qu'il lève, Emery?
Donc voilà. Ouais. Mais arrêtez, arrêtez. Et il me semble qu'il y avait aussi. On pouvait projeter son comparse sur.
Oui, pour atteindre des points.
Voilà. Il me semble qu'il y avait ça, voire même sur l'ennemi. Il me semble. Mmh. Je crois qu'on pouvait faire ça.
Je me souviens plus.
Dans mon souvenir. Il y a un autre truc aussi marrant en solo, c'est que le système de sauvegarde aussi était moins frustrant que dans les premiers, puisque tu pouvais sauvegarder à peu près où tu voulais, me semble-t-il aussi. Donc ça rendait le truc un peu moins frustrant. Et il y avait aussi l'apparition des chemins alternatifs aussi, un peu plus fréquents qu'avant.
Ouais, mais ils sont toujours assez facilement identifiables finalement.
Mais il faut quand même avouer que c'est pas l'épisode qui a laissé le souvenir le plus impérissable de la série. D'ailleurs, très rapidement après, un an après, Splinter Cell débarque cette fois-ci sur PSP. Alors ça a été un gros flop en termes de vente, hein, mais à la fois la PSP à l'époque n'était pas très installée, ça n'a pas très très bien marché. Il s'agit de Splinter Cell Essentials, qui revenait en fait sur la vie de Sam Fisher avec une grande série de flashbacks. Mimi, est-ce que tu peux nous parler de cet épisode
Tout à fait. Alors déjà,
pour toi est très cher. Et,
un épisode qui a été marquant, mais vraiment dans le sens.
Très cher,
tout à fait.
Il va falloir qu'on change.
Donc voilà.
Fais chier.
Donc.
Oh joli.
Mais laissez-moi. Oh, c'est fait, oui.
Alors Emeric,
oui,
j'ai pu nous parler de cet épisode qui tient très cher à ton cœur.
J'ai ma place. Donc déjà, je le disais tout à l'heure, c'est une des marques de fabrique de la saga, c'est effectivement son. Sa puissance technique, technologique qu'on voit à chaque fois. Là sur PSP c'était une catastrophe. vraiment on en prenait.
C'est vrai.
Il y avait des bugs de caméra, c'était terrible, des fois ça se coinçait dans les textures.
Ils ont un peu de mal Ubisoft avec la PSP. Assassin's Creed n'est pas terrible non plus.
Ils y sont pas risqués surtout, c'est ça aussi, en tout cas pour Splinter. Et donc voilà, alors il y avait aussi le système de caméra. Alors on parlait de la caméra libre de Splinter Cell de manière générale, où effectivement tu utilisais ton stick droit pour pouvoir te déplacer.
Sauf
t'es un peu embêté,
il n'y
a pas de stick droit sur PSP. Donc si tu tombes sur un problème, donc on arrive à une jouabilité à la MGS. Alors, ça peut lancer un très très gros débat ce que je vais balancer, mais je vais quand même le faire.
Je vais quand même le faire.
Tu appuies sur un bouton, il me semble que c'était rond, et à ce moment-là, tu pouvais déplacer la caméra sans déplacer Fisher. Mm-hmm. Donc là, ça devient vite problématique puisque tu as l'habitude dans ce jeu-là de préparer ta stratégie, temps, d'avancer et de regarder autour de toi un peu ce qui se passe. Donc là, tu ne pouvais pas. Donc forcément, c'est un peu frustrant pour le gars qui s'achète Splinter Cell sur PSP, qui pense retrouver du Splinter Cell classique. Là, forcément, il est un peu déçu.
Ah oui, et toi, tu as marqué sur les notes, c'était pourri. Hein. C'est pourri sur les notes, ça se transforme en décevant.
Oui, tout, okay. tout à fait.
C'est la réserve journalistique.
Oui, voilà. Il se dégonfle, c'est tout.
S'ajoute à ça une IA absolument dramatique. Et là, j'en ai des souvenirs précis. Puisque...
Là, sur les notes, t'avais marqué à chier. je fais la traduction.
C'est censé rester entre nous. Bon, bref, en tout cas, c'était vraiment lamentable. Donc, on avait des gars qui on pouvait les. Enfin, les mecs te repéraient à même pas à 2 mètres. Enfin, il te repérait de fallait vraiment que ce soit très très proche, il était pas réactif du tout, enfin tu pouvais abattre un mec et l'autre à côté le voyait pas, enfin c'était enfin pour moi c'était la catastrophe quoi, vraiment c'était la catastrophe.
Oula, ça a l'air de t'avoir vraiment
touché.
Mais je
regarde un très 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 mauvais souvenir. Et puis ensuite donc c'était un histoire de flashback comme tu l'as dit. Alors, le truc intéressant au niveau scénario, c'est qu'en fait ça se passait après le prochain dont on va parler, qui est
Double Agent.
Voilà, Double Agent. Et donc ça traitait de choses qui ont été faites par Fisher enfin c'était des flashbacks sur Double Agent en fait. Voilà. Donc il y avait un problème qui était que Fisher en fait a été accusé par je sais plus qui, il est accusé de terrorisme en tout cas. Voilà, pour ses actes passés dans Double Agent en fait. Mm-hmm. Et donc
sauf que Double Agent n'est pas encore sorti à cette époque.
Exactement, voilà. Et donc tu revivais
mais 24
des actions
et Jack Bauer pas mal à cette époque.
Et donc tu vivais à travers des 10 niveaux, tes 10 niveaux des choses qui étaient donc déjà passées. Pour trouver des preuves de l'innocence de
Fisher.
Donc voilà. Et donc du coup, bah, tu retraversais des niveaux qui avaient déjà existé, enfin, ou qui allaient enfin, exister, mais qui n'étaient pas encore apparus. Donc c'était un petit peu redondant. Et voilà. C'est à peu près tout.
Un épisode passionnant.
Ah bah c'était pas. Puis bon, t'avais un mode multi aussi, mais si tu veux vraiment en parler, c'est simple, on n'y voyait pas grand chose sur PSP, vraiment, parce que c'était super sombre. Déjà qu'à l'époque, c'était les PSP où on n'y voyait pas vraiment, vraiment bien. non mais c'est vrai, hein, c'était le reflet et tout, c'était dramatique. Et puis c'est là où t'avais, à ce moment-là, t'avais plus de bugs de caméra, je m'en souviens, effectivement. J'avais une caméra qui était restée coincée dans les murs. Mmh. Ça devient vite problématique lorsque tu te déplaces. Voilà, donc ça reste une très très mauvaise expérience.
Probablement donc le plus mauvais opus de la série.
Bah, on peut dire ça. Maintenant, il y a des gens qui ont apprécié aussi. J'ai parce
dit
qu'on
opus,
retrouve,
alors qu'il fallait pas.
On retrouve son Splinter sur PSP. Il n'y avait pas que des choses mauvaises non plus, mais moi, je m'attendais à complètement autre chose et j'ai été vraiment super déçu. Donc, à titre personnel, ça m'a vraiment déçu.
Alors, Mimic, puisque ton avis nous intéresse, hein, bien évidemment, sur la saga des Splinter Cell,
surtout Julien,
dont tu es fort friand. En 2006, donc toujours la même année, et bah, Splinter Cell débarque sur les consoles actuelles de l'époque, mais aussi Next Gen avec l'épisode.
C'est pas mal ça.
C'est pas moi en fait.
Les consoles actuelles de l'époque, attends.
Hein ouais, d'accord. Oui, je sais, mais parce que je sens que ça va intéresser.
Mais moi, je peux relancer encore un peu.
Donc, l'épisode Double Agent. Voilà. Ah oui. Donc, tu en as parlé un petit peu, mais on va passer la parole à Julo, puisque c'est, je crois.
Moi, je suis votre spécialiste en double agent.
Voilà.
Je crois l'agent infiltré.
L'un de tes jeux vidéo préférés. Donc, tu vas pouvoir nous en parler
juste
avec passion.
Après Shenmue.
C'est ça.
Chez quoi?
C'est mon.
Hein,
voilà.
D'accord.
Chaîne dure. Comme disait
Trump. Oh merde.
Il y a à peu près. Ouf.
Désolé. Ça va bien.
On me l'a jamais fait celle-là.
Donc Double Agent 2006, l'arrivée sur console next gen.
Alors
enfin,
oui, alors
de l'époque.
Très important le parce que quand même Splinter Cell c'est une série qui est connue pour ses comment on dit achievements.
Ah, technologique.
C'est
réussite,
c'est performance technologique, oui. etc. Donc on attendait évidemment impatiemment qu'il débarque sur les consoles de nouvelle génération. Donc Xbox 360 en tête. Alors, Splinter Cell Double Agent, c'est un jeu qui est intéressant à pas mal de niveaux. Donc, pour refaire un petit point sur le scénar, donc en gros, ça commence juste après Chaos Theory. Donc, on est en septembre 2007. Et en fait,
Date du jeu.
Hein ?
Date du jeu.
Tout à fait. Oui. Et donc, Sam va partir en mission avec un rookie, en gros, pour le former. Donc, dans une mission à peu près banale, quoi, on va dire. Mission qu'il va réussir, cela dit avec perte et fracas quand même, parce que le rookie en question va mourir.
Oups,
désolé. Mais bon, bref, une mission assez classique. Et du coup, Sam Fisher revient après et rencontre le colonel. Comment s'appelle-t-il? Lambert, voilà. Le colonel Lambert.
Le fameux Lambert.
le fameux Lambert, qu'elle a depuis le début.
Rien à voir avec
c'est un peu comme le Colonel chez, avec Snake.
Avec Campbell.
Voilà, c'est Campbell. Voilà. Donc, bref, il lui annonce la mauvaise nouvelle. Sam, je suis absolument navré, j'ai une très mauvaise nouvelle.
Je suis
ta fille
père.
Sarah est morte.
Non.
Écrasée par un chauffard.
Ivre mort, et c'est une catastrophe. Donc évidemment Sam Fisher va tomber dans une déprime sans fond, et il va merder quelques missions, et du coup on va lui retirer son poste d'agent de échelon 3,
parce qu'il faut savoir qu'il a perdu sa femme auparavant, hein. Je fais une petite parenthèse, mais la fille
le pauvre a une vie tragique,
voilà. Bah, tout va bien.
C'est-à-dire que la mère de sa fille est morte d'un cancer de je sais plus quoi quelques années auparavant, 89 ou un truc comme ça. Donc
non, mais alors,
bref,
c'est intéressant parce que alors, je sais pas si vous vous souvenez de la jaquette du jeu, on voit Sam Fisher avec les cheveux rasés, avec un peu une tête de taulard, etc.
C'est un mugshot.
Alors, c'est le premier aspect intéressant du jeu, c'est que vraiment, pour une fois, j'ai envie de dire, ils vont essayer de creuser un peu le scénario, les situations et le personnage, donc avec un personnage vraiment dépressif qui va être retiré à qui on va retirer son job principal. Mais du coup le colonel Lambert va lui proposer une nouvelle chance de rentrer un peu dans les affaires, et donc il va devenir en fait un agent infiltré, un NCO, c'est un non-official cover operative. Donc en gros, au lieu d'aller s'infiltrer discrètement, etc., là c'est de l'infiltration
discrète,
c'est-à-dire concrète. Où il va en fait devenir le membre d'une organisation terroriste. Donc ils vont
plus comme un flic en fait.
Comme un flic infiltré,
avec une couverture, etc.
Et voilà, alors on est en plein dans la période, comme 24. Tu disais, 24, et c'est évidemment une inspiration forte pour cet épisode-là. Donc en gros, il va aller en prison et gagner la confiance d'un mec qui appartient à une organisation qui s'appelle le JBA, c'est le Jones Brown Army, et il va l'aider à s'évader. Ils vont s'évader tous les deux. Du coup, il va gagner sa confiance et il va vraiment infiltrer le JBA. Et du coup, à partir de là, il y a une nouveauté de gameplay qui est assez intéressante. En fait, c'est une jauge de confiance, et donc en fait tu vas devoir tout le temps jongler entre la confiance que va te porter la NSA, donc l'organisme qui t'a infiltré là, et la JBA, donc cet organisme terroriste dans lequel évidemment tu vas devoir faire tes preuves, etc. Donc ça va
en
mener
bien
fait...
l'XRB quoi.
D'accord. Non, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette fois tu vas devoir faire des choix parfois immoraux. Tu vois, tuer quelqu'un pour gagner la confiance du mec qui t'a demandé de le tuer, ou alors le sauver d'une manière ou d'une autre pour gagner la confiance de la NSA. Et en gros, quand la balance penche trop d'un côté, quand elle penche même complètement d'un côté,
c'est
game over.
Voilà.
C'est game over. Donc du coup, tu dois vraiment jongler en permanence, faire des choix un peu difficiles, etc. Et donc ça ouvre complètement le jeu, et ça lui donne une rejouabilité, comme on dit, une replay value en anglais, qui va te permettre de recommencer un peu le jeu de manière différente, etc., en faisant des choix différents. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour le solo. Mm-hmm. Malheureusement, il y avait donc tous ces progrès avec les modes en ligne sur les épisodes précédents. Là, malheureusement, le défaut, c'est un peu le syndrome inversé de Splinter Cell, c'est-à-dire que il avait plus convaincu à ce moment-là sur le solo, et beaucoup moins sur le coop, qui était en fait une sorte de versus déguisé. Il y avait plus ces missions coop comme dans l'épisode d'avant, bien particulière, dans lequel tu jouais vraiment à deux. C'était
HL contre Siri.
C'était voilà, exactement. c'était du versus en fait déguisé. Tu jouais tout simplement les missions du versus à deux contre l'ordinateur. Donc c'était pas
des matchs de 5 minutes.
C'était pas terrible, terrible. Voilà, des matchs de 5 minutes ou un peu plus. Si j'avais un truc à dire encore à la fin.
Exact.
Non, mais donc vraiment un épisode intéressant sur le scénar, sur le personnage, où ils ont vraiment essayé de créer quelque chose qui est absent
Fisher,
toute la série, parce que moi personnellement, s'il y a un truc sur lequel j'adhère absolument pas à cette série, c'est la cohérence, comme disait Traz, les scénarios sont un peu risibles, c'est un peu toujours la même chose, etc.
On passe d'une mission à l'autre,
voilà,
c'est surtout
qu'il n'y a pas de continuité,
c'est hyper alambiqué.
Il y a des personnages récurrents, mais il y a peu de retours comme ça, il n'y a pas des personnages comme, je sais pas, Wesker dans
la série. Mais si, il y en a, mais ils ne ressortent pas autant que dans d'autres séries. Mais il y en a, même dans le dernier, t'as Grimms Dottir qui est la nana qui s'occupe de tout l'aspect informatique, etc. Piratage, machin. Il y a Lambert, il y en a d'autres.
Mais ils arrivent quand même à créer ce qu'il peut y avoir dans un Metal Gear, ou dans Resident Evil, un affect tout simplement, qui fait que tu t'attaches à la série, que vraiment tu te rappelles des épisodes précédents. Honnêtement,
c'est parce
là on a préparé ce podcast
en fait
de manière professionnelle comme d'habitude. On est allé se francarder sur tous les scénarios qu'on a vécu en jouant à ces jeux, etc.
Et on a rien
mais
compris.
Honnêtement, il nous en restait
rien. On s'en souvenait
rien.
Plus, mais oui, c'est voilà. On s'en souvenait plus parce que c'est trop. Il y a trop de personnages, il y a trop de géopolitique, il y a trop de trucs.
Bah oui,
ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rappelle vraiment essentiellement du gameplay et pas trop des histoires.
Exactement.
Alors que dans Metal Gear, souvent, on se rappelle plus
c'est
de l'histoire que du gameplay.
C'est vrai.
Donc c'est là où après.
Mais c'est deux.
Il a trouvé sa place. C'était pas une copie de Metal Gear. faire. Il a investi le créneau de l'infiltration, etc. Mais il l'a fait de manière vraiment assez différente pour qu'on puisse trouver
et
du pour et du contre des deux
côtés. Kojima
côté.
Sur certains points, on en reparlera tout à l'heure.
Ouais, Kojima a eu du mal à venir à la vue sur le stick droit, mais il a fini par y venir.
Il y a même des références directes dedans, dans Metal Gear 3 notamment.
Exactement. Mais justement, on en reparlera tout à l'heure sur les relations entre Metal Gear et Splinter Cell. Mais alors justement, après Double Agent, eh bien, 4 ans plus tard, c'est la fois où il a fallu attendre le plus longtemps entre deux épisodes, et bien arrive demain, pour ceux qui nous écoutent ce mercredi, donc le jeudi 15 avril, eh bien, le nouveau Splinter Cell Conviction, qui lui a eu une gestation particulièrement complexe. Il avait été annoncé initialement en 2007, il devait sortir à la fin 2007, en novembre. Et finalement, vous voyez qu'il aura fallu attendre plus de quasiment 3 ans entre ce qu'il comptait faire et finalement la sortie définitive. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est que le jeu a été totalement repris à zéro. Il était quasiment fini sur une première version. Et finalement, l'optique qui avait été choisie était radicalement différente de celle que vous allez découvrir dans le Conviction qui sortira sur Xbox 360 et PC. Qui veut raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Julo.
Alors, donc on se souvient effectivement, c'est en mai 2007, c'est ça ?
Il a été annoncé en mai 2007.
On l'avait vu un peu plus tard au Ubidays, etc. Bon, ouais. Il y avait une vraie volonté de renouveler la série, de faire quelque chose de neuf.
Alors, il faut savoir
qu'à
l'époque, il y avait Assassin's Creed qui était une des nouvelles licences d'Ubi qui était en développement, effectivement.
Qui a un peu une part d'infiltration, etc. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, on parlait de l'ambiance un peu 24 sur l'épisode d'avant. Là, il y avait un côté un peu Jason Bourne dans cet épisode-là. C'est-à-dire que là, il s'était dit voilà, on va un peu changer l'infiltration et changer un peu ce syndrome du couloir quand même. Même si sur l'épisode d'avant, ils avaient fait des gros progrès sur la façon dont tu pouvais aborder les missions, etc. Là, ils avaient envie de créer un truc beaucoup plus ouvert et d'utiliser ce qu'avait donc fait Assassin's Creed brillamment, c'est-à-dire l'infiltration dans la foule avec vraiment plein de gens dans des endroits ouverts, etc. Et donc, c'était ça le principe. C'est-à-dire qu'au lieu de rester confiné dans des couloirs à avancer de manière linéaire, etc., c'était des endroits ouverts où tu devais t'infiltrer en plein milieu de la foule, où tu devais faire attention à ne pas être repéré pour pas que les gens te dénoncent, pour pas qu'ils fuient, etc., etc. Et de la même manière, ils avaient zappé un peu tout l'aspect gadgetophile de Sam. Voilà. Ouais. Et il n'y avait plus de gadgets parce qu'en fait, tu utilisais les éléments du décor, un banc, une chaise, un bidule, machin, n'importe quoi qui traîne. Et c'était ça que tu utilisais. Et quelque part, en cassant complètement cette formule, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. Et on se souvient, on l'avait vu au Ubidays à l'époque en 2007. Et c'est vrai qu'on avait du mal, on comprenait le principe, etc. Mais une fois le jeu démarré, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça va marcher ? C'est pas très cohérent, etc. Et c'est ça qui posait un vrai souci.
Bah, ils se sont rendu compte, en fait, au fur et à mesure du développement, que ce qu'ils arrivaient à faire avec Assassin's Creed, qui est finalement un monde virtuel, puisqu'on est censé être dans l'Animus, et que du coup, lorsqu'on rate une action, une séquence, on revient à zéro, la foule se remet instantanément au bout de 2 minutes, même si elle a été alertée, entre guillemets, et que c'est finalement cohérent parce qu'on sait qu'on est dans une virtualisation d'un univers. Autant là, imaginons, on fait exploser une bonbonne de gaz, on crée une réaction en chaîne dans un parc avec 100 personnes autour de soi, ces 100 personnes fuient. Sauf que ce qui est réaliste, c'est qu'elles ne reviennent pas 30 secondes après, quoi. Parce qu'elles ont bien compris qu'il y a eu un attentat ou quoi que ce soit.
Et puis, il y a la cavalerie qui arrive, toi, t'es tout seul.
Et ça vide totalement le gameplay. Et il y a eu un gros problème avec ça, parce que d'un jeu très réaliste, Splinter Cell, ils ne pouvaient pas faire autrement que se retrouver avec des univers qui se vidaient au fur et à mesure, et on se retrouvait un petit peu tout seul. Et il y a eu une très lourde décision à ce moment-là, et finalement assez judicieuse d'Ubisoft, de se dire « ça ne marche pas, et on prend le risque de tout recommencer ». Et ça, quand même, c'est assez rare de voir des développements de cette ampleur-là, parce que le jeu vraiment avait été
assez rare qu'on en entende parler, en fait. C'est surtout
on en avait entendu parler avec FF12 aussi. Je peux me souvenir qu'il y a un jeu aussi qui a eu une gestation un peu compliquée, qui a été, d'après ce qu'on a pu entendre, recommencé plusieurs fois. Bah, c'est ça.
Mais d'habitude, quand ce genre de décision intervient et qu'un jeu est complètement recommencé entièrement, en général, on n'a pas le temps d'en entendre parler avant qu'il soit recommencé, quoi.
Et surtout quand tu recommences à ce point-là à zéro, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même rien gardé.
Non.
Rien.
Même les mecs.
Ne serait-ce que la gueule de Fischer qui est pas la même.
Ils ont viré tout le monde. Et
non, mais c'est vrai, c'est dingue. Et Bélan, il était déjà co-produceur.
Il est arrivé en cours. Il n'était pas au tout début de cette version-là.
En tout cas, il était coproduceur et il est devenu ensuite
Maxime
Bellan.
Donc vous pouvez avoir l'interview assez passionnante sur gameblog.fr à l'occasion du TGS où vous verrez à quel point il ressemble à Jack de Lost.
Ouais, c'est vrai.
À l'accent québécois en plus.
Moi, en tout cas, si je peux me permettre, j'aimais bien la tête qu'il avait justement quand tu.
Ouais, avec sa barbe. Voilà.
Mais est-ce qu'il ressemblait pas trop à Snake de Metal Gear?
Ah, si, un petit peu, c'est vrai qu'il ressemblait pas mal. Non, mais il avait l'air complètement désabusé et tout, complètement perdu. Les cheveux longs, barbe de je sais pas combien de jours
avec son
etc.
sac en bandoulière là.
Moi je trouvais le personnage vachement classe quoi. Ouais, j'ai trouvé ça dommage qu'ils reprennent pas justement cet aspect là.
C'est vrai que le nouveau Sam, donc celui qu'ils ont finalement fini par adopter, est beaucoup plus
traditionnel,
classique,
conforme voilà. Par rapport à ce qu'il était avant. Donc
il faut savoir
dommage.
Pour les fans de la série que quand même dans la version donc qu'on ne verra jamais de Splinter Cell Conviction, il y avait quand même des fondamentaux entre guillemets, les fameuses goggles qui avaient disparu. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. C'était un reset de la série, ni plus ni moins.
Bah, il y avait une volonté de faire un anti-Splinter Cell un peu dès le départ en fait, c'est ça qui est voilà. Et puis ils se sont aperçus que c'était pas possible.
Je pense que c'était aussi peut-être beaucoup trop proche d'Assassin's Creed en fait.
Ça carrément, c'est vrai.
Ils avaient peut-être besoin de se différencier.
Il était déjà annoncé et tout à ce moment-là, oui. Assassin's Creed, ouais.
Oui. Ah oui oui.
Alors c'est dommage, j'espère qu'un jour ils reprendront un petit peu ce concept-là pour Splinter pour radicalement changer le truc. Je sais pas s'ils ont tout jeté à la poubelle, mais en tout cas je pense qu'il y avait quand même des trucs à garder qui peuvent être intéressants.
C'était peut-être trop ambitieux aussi technologiquement pour avoir eu des infos en interne de chez Ubisoft. Apparemment, technologiquement parlant, c'était
très compliqué.
Ça posait des
problèmes.
Il y avait énormément de personnages à afficher. Il fallait que quasiment l'intégralité du décor puisse être interactif pour pouvoir créer des situations. Et ça avait du mal à suivre sur le jeu, on va dire, dans son ampleur totale.
Ou alors, il fallait faire un Virine-like.
Néanmoins, aujourd'hui, Splinter Cell Conviction est une réalité, alors pas la même que celle de 2007, mais Raon, tu as pu le vivre totalement, t'immerger en compagnie de Sam Fisher. Alors, qu'est-ce que vaut ce Splinter Cell Conviction et qu'est-ce qu'il apporte ?
Alors, on a vu qu'au fil de la série, finalement, Fisher est un personnage qui a été enrichi au fur et à mesure. D'une part par rapport à son passif dont on a appris certaines choses avant. Donc l'élément le plus important et qui est la base de départ du scénario de ce nouvel épisode reste la mort de sa fille. Donc il a dans Conviction, au tout début de Splinter Cell Conviction pardon, t'es à une terrasse de café, tu es en dehors d'échelon 3, t'as raccroché et tu finis par te rendre compte que peut-être ta fille n'est pas simplement morte écrabouillée par un ivrogne, qu'il y a peut-être quelque chose de plus derrière tout ça. Et Grims Dottir, dont on parlait tout à l'heure, donc la responsable de l'informatique chez Echelon 3, etc., qui est une hackeuse, reprend contact avec toi. Et tu te retrouves donc lancé à la poursuite des gens qui sont responsables, entre guillemets, de la mort de ta fille. Donc ça, c'est le pitch de base. Donc tu as un Sam Fisher qui reste finalement proche du design original, c'est-à-dire un peu rogue, qui est en dehors des instances officielles de ces sociétés secrètes que sont Echelon 3, la NSA, etc. Et tu pars tout seul pour essayer de venger la mort de ta fille. Donc ça fait un épisode qui finalement poursuit en fait cette tendance à aller vers le Jason Bourne, vers le Jack Bauer et tout ça, pour faire un Sam beaucoup plus violent, qui en a un peu ras-le-bol de toutes ces histoires d'État et de machin et de bidule, et qui pense un peu à sa gueule avant toute chose. Donc ça, c'est un gameplay qui reste centré sur l'infiltration avec beaucoup plus d'action qu'avant.
Alors avant de revenir justement sur les nouveautés, hein, le fameux mark and execute, les interrogatoires et le côté l'articulation entre action qui a véritablement été boostée et l'infiltration qui reste néanmoins présente, est-ce que à l'image de Double Agent, ils poursuivent un petit peu plus sur la scénarisation et sur essayer de créer de l'affect avec les personnages ?
Alors oui et non, parce que ils introduisent par exemple un système
62 nouveaux personnages.
Ouch.
Non, il y a des nouveaux personnages évidemment, il y a des anciens qui reviennent, mais tu te retrouves assez vite dans un scénario fidèle à ce qu'est Tom Clancy, c'est-à-dire complot, terrorisme, plusieurs trucs, etc., qui se mélangent pour faire un contexte un peu de ouf. Par contre,
c'est marrant, j'ai l'impression que sans Tom Clancy, ça serait mieux Splinter Cell. En fait.
C'est possible,
sans déconner.
Scénario. C'est
joyeux anniversaire, Tom. C'est possible, mais par contre, effectivement, ils ont voulu insister sur la psychologie de Sam, par exemple. Tu as des projections sur les murs, en fait, donc qui servent d'une part à compter un petit peu le scénario, mais aussi à établir l'état émotionnel de Sam. Donc tu vas voir des mots genre colère, machin,
ah ouais,
etc.
C'est des simples mots, c'est pas juste ouais. Trouve fais ceci, fais cela. Enfin,
alors,
c'est pas juste une présentation.
T'as les deux, en fait.
Ça aussi.
Ça sert aux deux. Ça sert à la présentation des objectifs d'une part, c'est ce qui est le plus commun, mais parfois sur certaines scènes clés que je vais pas trop révéler, t'as aussi des flashs comme ça qui disent, qui véhiculent en un degré supplémentaire de l'émotion de Sam, parce qu'il y a certaines scènes particulière où effectivement il apprend des trucs qui sont assez qui le font réagir, quoi. Voilà.
Il faut libérer sa haine.
Voilà, c'est ça.
Libérez votre haine.
Libérez votre haine. Libérez.
Et alors, donc tu parlais tout à l'heure d'une des nouveautés du gameplay, c'est le mark and execute. Donc c'est cette possibilité avec.
Il y a beaucoup de débats là-dessus. Hein. Il va falloir que tu nous expliques un peu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est super, ça va dynamiser l'action, et d'autres qui craignent que justement ça la mette un peu trop sur des rails.
En fait, finalement, non, pas tant que ça. C'est-à-dire que le mark and execute est un outil très intéressant pour celui qui s'infiltre, parce que ça permet de tuer en fait 3 ou 4 personnes d'un coup en déclenchant une action par une simple pression du bouton Y, une fois que tu auras marqué ces cibles. Mais pour obtenir ces mark and execute, il faut d'abord réussir à éliminer quelqu'un au corps à corps. Donc ça fait déjà un degré particulier. Et une fois qu'il est utilisé, il est utilisé. Il faut de nouveau en accumuler un. Donc c'est plutôt agréable, parce qu'en termes de level design, etc., par la suite, ils ont évidemment mis des niveaux où il y a suffisamment de gardes pour que tu aies besoin de ce mark and execute et que ce soit pas trop facile de passer les niveaux. Quoi.
Le temps se ralentit pas quand tu fais ça?
Si, mais c'est juste visuel, hein. C'est un effet visuel avec D'accord. un cadrage dramatique, un petit ralenti où tu vois le mec. Voilà,
parce
le mec
dead,
se prend les balles.
Le Dead Eye de Red Dead Redemption, c'est exactement ça dans ce cas-là.
C'est un petit peu la même mécanique, sauf que t'as, quand tu supprimes un mec au corps à corps, que tu le mets hors de la partie, t'as automatiquement X marquages suivant l'arme que tu utilises. Et à la base, je crois que tu commences avec 2, et puis après, parce que tu peux customiser tes armes, etc., au fur et à mesure, tu gagnes des points en faisant des espèces de mini-challenges dans le jeu. C'est les PFC challenges, c'est exactement comme des succès, en fait. Genre, par exemple, tu réussis à t'évader 3 fois des mecs dans l'ombre, et puis bah, pouf, tu gagnes des points, tu dépenses ces points, et tu peux du coup acheter des silencieux, acheter des trucs qui t'augmentent le nombre de marques que tu peux faire avec un
fusil, c'est vraiment, etc. efficace. On se sent fort, on se sent bien, ça déséquilibre pas le gameplay.
Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand t'as un mark and execute de validé dans ta besace, tu sais que tu peux y avoir recours dans une situation difficile, tu te sens un petit peu rassuré. Le problème, c'est que tant que tu l'utilises pas, tu peux pas en accumuler de nouveau. Donc t'en as qu'un seul à utiliser, et il faut déterminer à quel moment c'est pertinent de l'utiliser. Donc tu vas avoir des joueurs qui vont l'utiliser dès qu'ils en ont un pour aller plus vite, et puis qui vont de coup devoir trouver une situation pour en récupérer un, etc. D'autres qui vont le garder en réserve pour une situation dont vraiment ils pensent qu'ils peuvent pas sortir sans ça, etc.
Ce qui est sympa, c'est que tu peux marquer des, si je dis pas de conneries,
oui.
des gardes,
oui, tu peux, ouais.
mais aussi marquer des éléments
objets.
Du décor.
Oui.
Par exemple, un truc qui pend au plafond, et à ce moment-là, tu vas dire, je peux marquer deux cibles, je marque le mec qui est là, et ensuite je marque le truc qui pend au plafond, comme ça, ce truc-là, une fois que je l'aurai shooté, va tomber sur les deux mecs qui sont en dessous, et du coup, t'as tué trois personnes.
Alors, non seulement tu peux marquer des objets et des mecs, mais en plus, tu peux marquer sans avoir de mark and execute en stock. C'est-à-dire que tu peux dire je veux marquer ce mec-là, ce mec-là, ce mec-là, et le troisième qui est juste à côté, quand je l'aurai zappé de corps à corps, je peux déclencher immédiatement le mark and execute derrière, que j'aurai gagné. T'as pas besoin d'interrompre si tu
c'est
veux.
C'est du pré-mark and execute.
Voilà, si tu veux, tu peux le prévoir, en fait. Et donc tu peux construire ta stratégie comme ça. Donc c'est une des grosses nouveautés, effectivement, de cet épisode, qui est intéressante tactiquement et puis visuellement aussi, parce que c'est quand même assez classe.
Et donc là, tu rassures un petit peu les gens sur l'équilibre.
Action,
facilité
infiltration.
Facilité d'utiliser ce, à tout va, le mark and execute.
Effectivement, le mark and execute seul, ça flingue pas complètement l'aspect infiltration. Mais c'est peut-être même plutôt le reste, en fait, qui rend ce conviction plus action qu'infiltration. C'est que t'as le système de couverture à la Gears of War, tu presses la gâchette et hop, t'es en couverture. Tu passes d'une couverture à l'autre vachement facilement. Les mecs ne sont pas forcément tous très très malins.
Oui, alors ça c'est le point sur lequel je voulais vraiment revenir, parce que c'est certain, on l'a vu sur les forums, et à juste titre, pour ceux qui ont essayé la démo,
oui.
on voyait que l'intelligence artificielle des adversaires était assez étonnante. Alors Ubisoft dit qu'ils ont créé une IA un peu particulière qui justement est beaucoup plus libre, beaucoup moins scriptée, mais dans les faits, dans le jeu final, comment ça se passe ?
Ils sont faciles à exploiter en fait. C'est-à-dire qu'il y a un autre élément nouveau dans ce Splinter qui est la silhouette. C'est-à-dire que dès que tu te fais repérer, le jeu affiche en blanc la silhouette de la dernière localisation de ton personnage que les ennemis pensent avoir vu. Donc ils vont forcément aller enquêter à cet endroit-là, etc. Et ça rend l'exploitation des IA vachement facile parce que tu sais que quoi qu'il arrive, il y en a un certain nombre qui vont aller voir là. Donc tu peux leur tendre des pièges, etc. Donc c'est un avantage parce que tu peux manipuler les IA plus facilement. Mais ça a une tendance à la redondance, c'est-à-dire que tu vas, il n'y a pas vraiment finalement de, en tous les cas, c'est pas ce que j'ai ressenti, il n'y a pas vraiment de côté aléatoire à la façon dont les mecs vont réagir, quoi. C'est-à-dire que tu peux, il n'y a pas de moment où tu te dis, est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va pas venir, qu'est-ce qu'il va faire.
Ils font toujours un peu la même chose.
C'est ultra scripté, quoi, quelque part.
Mais de toute façon, les IA, c'est,
oui, forcément. Quoi,
c'est toujours scripté. Il y a, c'est pas de la vraie IA, quoi. Il y a pas de jeu avec des vraies IA. Mais
justement, ils avaient dit que c'était moins scripté que d'habitude.
C'est peut-être moins scripté, mais ils ont une palette de réactions qui est limitée.
Ouais.
Voilà. Donc c'est facile à exploiter. Ceci étant, franchement, il y a de quoi se faire des bons kiffs par rapport à tous ces systèmes. Et globalement, c'est vrai qu'il est quand même plus facile de progresser en étant un bon infiltrateur qu'en étant un gros bourrin.
Mais parce tu peux que... quand même traverser un niveau étant donné qu'il y a un bon système de couverture machin etc.
Non.
En bourrinant, c'est-à-dire tu sors ton shotgun et t'avances.
Non, enfin, tu peux Rahan, effectivement c'est quand même vachement infiltration. Enfin, tu peux pas faire n'importe quoi.
Non, tu peux pas faire n'importe quoi, mais un très bon joueur va peut-être pouvoir s'en sortir en se faisant détecter plein de fois. Mais il y a aussi des missions où t'as pas le droit de te faire détecter tout court. Donc il y a aussi des missions où t'as pas le droit de tuer. Il y a aussi des missions, c'est des flics qui n'ont rien à voir avec l'affaire, etc., qui sont sur place, tu ne dois pas les buter. Donc il y a plusieurs scènes, donc je ne vais pas révéler non plus parce qu'on ne va pas spoiler le jeu, mais il y a plusieurs scènes particulières où, par exemple, tu vas avoir aussi des marques en exécute infinies. Donc ils jouent un petit peu avec ça. Il y a aussi des flashbacks qui t'en apprennent plus sur Fisher, etc. Et donc il y a une certaine variété quand même dans le jeu qui est vraiment intéressante.
Avant de revenir sur le multi, bien évidemment le test est déjà en ligne, le test écrit, hein, pour avoir toutes les subtilités au niveau du gameplay. Mais justement, au-delà de la technique et du gameplay à proprement parler, qu'est-ce que c'est un bon Splinter Cell, c'est un bon jeu tout court, c'est comment ?
C'est un bon jeu, c'est un bon Splinter. Je pense que les amateurs de toute façon retrouveront l'essentiel de Splinter. Il y a certaines choses qui sont dommages. Par exemple, t'as plus le spin jump, donc t'es obligé vraiment d'utiliser le niveau.
Le fameux saut écart.
Voilà.
Se mettre,
t'es vraiment très dirigé par le level design, par exemple, comme dans le tout premier Splinter Cell. C'est pas très très ouvert non plus, donc tu vois plusieurs voies à chaque fois. Y a
ça, c'est dommage parce que dans Double Agent ils avaient quand même vachement amélioré cet aspect là de pouvoir aborder
mais d'un autre côté,
l'infiltration de plein d'endroits différents, etc.
Mais ça donne un côté plus puzzle en fait, c'est à dire vraiment t'as des situations. Par exemple, donc au départ, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Fisher il est rogue dans cet épisode. Donc au début, il a pas de gadget.
Pour ceux qui savent pas ce qu'est un rogue,
c'est un agent en fait qui a disparu de la circulation. Il est plus sous tutelle officielle de son
agence. Il agit pour son agence. Compte.
Il est libre quoi. Donc il est libre, Max. Pardon. Pff, oh là là.
qui l'ont vu voler.
C'est vrai. Donc il a pas ses goggles, il a pas sa caméra pour les portes, il a pas de trucs comme ça. Donc au départ tu commences, t'es un peu à poil, t'as juste un flingue et voilà. Et au fur et à mesure du jeu, bon, tu vas récupérer d'autres trucs. Donc t'es confronté à des situations qui relèvent plus du puzzle en fait que vraiment de l'infiltration elle-même. C'est vraiment
un puzzle un peu violent hein, quand même, parce que dès le début ça canarde quand même fort.
Alors oui, il y a ça et puis il y a l'aspect interrogatoire aussi. C'est-à-dire que régulièrement dans le jeu, t'as des scènes où tu dois interroger les mecs. Alors c'est pas forcément les scènes les plus intéressantes.
C'est un gadget en fait.
C'est rigolo au début.
Ouais, mais c'est pas mal parce qu'ils parlent quand même pendant que tu les chopes, etc. C'est pas des
cinématiques. Au niveau
c'est...
mise en scène, c'est plutôt réussi. Un petit plus. Quand même.
Alors au niveau mise en scène, c'est réussi. Tu peux t'amuser à éclater la tête des mecs à différents endroits de là où tu les interroges.
Dans les toilettes.
Mais globalement, t'appuies juste sur B pour qu'il balance la suite de son histoire. Il y a pas de subtilité, il y a pas de véritable mécanique de jeu liée à l'interrogatoire. Donc c'est un petit peu dommage. Ils auraient peut-être pu essayer de complexifier un petit peu ce truc-là.
C'est un peu plus marrant en multi, par contre.
Alors,
interrogatoire.
Bah, c'est le même principe, sauf que.
Oui, mais sauf que là, tu dois couvrir l'autre pendant que les mecs arrivent, etc. Quoi.
Effectivement, et là, on touche à peut-être. Bon, la campagne solo est réussie. Hein. Ouais. Globalement, c'est intéressant.
Combien d'heures à peu près ?
Bon, c'est pas très long, ça va faire une dizaine, douzaine d'heures. Quoi,
un jeu classique. Quoi.
Voilà, un jeu d'action de base. Le seul truc, c'est qu'effectivement, je déconseille de s'y mettre en niveau facile au départ, parce que comme les IA sont pas non plus super malignes et tout, tu t'amuses quand même, mais il vaut mieux commencer à un niveau de difficulté sérieux dès le départ, et tu vas mourir plein de fois, parce que ça reste quand même du die and retry. Beaucoup, c'est que tu vois pas forcément, surtout au début quand t'as pas les goggles, tu vois pas forcément tous les mecs, et donc tu te retrouves dans des situations des fois où t'avais pas prévu, et le coup d'après, bon bah t'y arrives.
Ok, donc pour conclure sur conviction, le mode multi, parce qu'en fait il y a plutôt des modes multi.
Ouais, il y a d'une part le prologue, qui est donc le mode coopératif, où tu vas jouer à deux là vraiment, un agent russe et un agent US qui se mettent ensemble pour résoudre une campagne. Qui est en fait qui sert de prologue donc à l'histoire principale que tu vas jouer avec Sam Fisher. Donc ça c'est très réussi.
C'est le début chez ta fille où tu lui cries dessus. C'est pas ça ?
De quoi ?
C'est une simple question. C'est le début chez ta fille où t'es chez toi, non ?
Non, ça c'est le tutoriel en fait, qui t'apprend par exemple que quand la lumière, quand les couleurs sont désaturées, que tu passes en noir et blanc, ça veut dire que t'es planqué dans l'ombre, etc. Ça c'est dans la campagne solo. Dans le mode coop, donc le prologue. C'est un scénario qui se passe quelques temps avant le début de la campagne principale et qui amène au cœur de l'intrigue qui va faire la campagne solo.
Il y a un côté un peu buddy movie avec un agent d'échelon 3 et un agent russe qui sont pas forcément faits pour s'entendre et contents de travailler ensemble. Donc t'as un petit aspect scénaristique déjà par le fait que ce soit un prologue et en plus par ce côté-là un peu buddy movie.
Et c'est des niveaux complètement à part. Donc c'est vraiment une campagne qui est spécifiquement faite et écrite pour le coop, avec sa petite histoire. Donc elle est plus courte que la campagne solo évidemment, dans laquelle tu vas vraiment progresser à deux et où il faut les deux joueurs. Il faut les deux joueurs, ne serait-ce que par exemple en termes de gameplay pour ouvrir certaines portes ou pour effectivement couvrir l'interne. Quand il y en a un qui fait l'interrogatoire d'un mec, l'autre doit couvrir pour éviter que.
Est-ce qui est sympa aussi, c'est que tu peux partager les marques en execute.
Oui.
Il y en a un qui va marquer pendant que l'autre va se planquer, faire le tour et puis les exécuter.
T'as double ration et tu peux déclencher en même temps en fait des exécutes des deux joueurs. Et là, ça fait des trucs assez magnifiques quoi. Et c'est vrai que c'est super trippant quand tu joues avec quelqu'un que tu connais bien ou sur un niveau que tu connais bien. T'as les deux qui progressent en parallèle et c'est vraiment super.
Ah bah c'était la force de Chaos Theory. Et...
Voilà. Donc en dehors de ce mode coop, il y a aussi des modes compétitifs. Ceux-là sont assez simples. Hein. T'es à deux par exemple dans une map et il faut éliminer tous les mecs qui sont dans la map. Ou alors t'es contre un autre agent, donc c'est pas ultra développé.
C'est moins novateur que ce qu'avait apporté à l'époque Pandora Tomorrow.
Ah bah oui, clairement.
On n'a pas le cache-cache du 21e siècle.
Non, on n'a pas le cache-cache du 21e siècle. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il l'ait pas réintroduit peut-être en version next-gen.
Mais il y a des trucs un peu similaires, non dans les...
Non, pas vraiment, non.
Ah bon,
non, pas trop.
Ah, c'est dommage.
Enfin, il y a des face à face, quoi, mais bon, c'est pas les mêmes genres de mécaniques où t'as vraiment les spies avec leur palette de coups, les mercenaires avec la palette de coups, et tu t'opposes, et voilà, quoi. Il n'y a pas de ça, quoi. C'est dommage. Mais
en tout cas, c'est...
Mais globalement, en comptant la campagne solo, le mode coop, les modes multi, etc., t'as quand même un jeu assez complet, quoi.
Vas-y, Julien.
C'est exactement ce que je voulais dire. Finalement, Splinter Cell Conviction est plutôt complet.
Oui.
Pour ceux qui aiment le multi, il est certes plus classique que ce qu'on aurait pu espérer par rapport au précédent de la série. Néanmoins, il est efficace, tout comme finalement le mode solo. Donc finalement, ils ont probablement bien fait de prendre ce risque de tout recommencer. Ils ont peut-être eu moins de temps que ce qu'ils espéraient, mais finalement, le jeu est plutôt convaincant. Pour conclure ce podcast 138 dédié à la saga Splinter Cell, quelques petites informations aussi concernant l'ensemble de la série dans l'absolu. Savoir que par exemple, Splinter Cell, c'est aussi 6 romans. Parce que je sais que ça vous intéresse. Vous voulez probablement les noms pour les retrouver en bibliothèque. Eh bien, il s'agit de Tom Clancy Splinter Cell, je vais pas vous enlever le Tom Clancy à chaque fois. Hein.
Ouais, Opération Barracuda.
Voilà, Opération Barracuda, on dirait un truc de
l'agence
SAS.
De risque.
Un vieux SAS des familles. L'épisode Checkmate, Fallout, Conviction, tiens, comme de par hasard.
Et Endgame.
Voilà, et il faut savoir quand même que dans sa carrière, notre ami, je vais reprendre son vrai nom, Thomas Leo Clancy Jr., il a quand même vendu 80 millions d'exemplaires de ses bouquins Tom Clancy, donc j'ai envie de dire que tout va bien pour lui. Et devant le succès de la série, on rappelle, hein, quasiment 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde avant la sortie de Splinter Cell Conviction, il faut savoir que tel une sorte de serpent de mer, et bien le projet du film circule déjà depuis maintenant bien longtemps. Il y avait même un teaser qui avait été inclus à la version Chaos Theory dans le collector US et la version européenne Platinum. À l'origine du film, il devait être produit et réalisé par Peter Berg, qui n'est pas n'importe qui. qui a réalisé les chefs-d'œuvre que sont Very Bad Thing et Hancock.
C'était pas si mal que ça.
Ah, Very Bad Thing, c'était très rigolo.
Oui, oui.
Hancock, c'était rigolo aussi.
C'était pas mal.
J'ai pas vu.
Et puis, qui devrait normalement bientôt réaliser un autre film inspiré du jeu vidéo, Army of Two. Et si je disais.
Oh merde.
C'est parce que finalement, Berg a quitté le projet en 2005. Tellement le.
Ça, c'était. Il a quitté le Splinter.
Voilà, le projet Splinter Cell, tellement ça faisait un bail que ça devait être fait. Puis ça se faisait pas. Parce qu'entre temps, Paramount.
C'est DreamWorks qui a été racheté par Viacom, voilà, machin,
et puis des trucs, et puis des machins. Enfin bon, en gros, rien de neuf du côté du film. Pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu gelé. J'ai l'impression, un petit peu comme beaucoup d'adaptations de jeux vidéo.
Gelé, c'est vrai. Iceberg, putain, elle est pas mal.
Joli.
Quel esprit rotor. On sera toujours impressionné. Il est tellement fier de sa vanne. C'est dommage. Pour ceux qui regardent la gamecam, voilà, vous comprendrez pourquoi Traz, à ce moment-là, a fait cette tête incroyable. Vous pouvez revoir tous les épisodes de la gamecam sur le blog de Monsieur Jojo.
Exact, ce génie.
Hein, si vous a manqué quelques épisodes de la semaine, si vous voulez pas regarder la gamecam au quotidien. Autre petit easter egg, des petites pépites comme ça qu'on peut voir. On sait bien évidemment que Metal Gear Solid et Splinter Cell sont les deux grandes licences, on va dire, de l'infiltration en jeux vidéo. Et forcément, on sait aussi que Hideo Kojima est assez proche des équipes d'Ubisoft Montréal. Hein. On a vu ses liens avec Jade Raymond. Enfin, ses liens.
Oulala, le pavé dans la mare.
Voilà, on sait qu'ils sont assez proches professionnellement parlant, qu'ils s'apprécient. Il fait des comment on appelle ça,
avec
des poissons d'avril.
Avec Pat aussi.
Exactement, Patrice Dessilet. Et ben, y a une petite mention dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Il faut aller dans le mode spécial, hein, avec les personnages d'Ape Escape, Snake versus Monkey. Et là, il y a une conversation dans le codec, comme assez souvent dans les Metal Gear, c'est là où se passe pas mal de choses. Où donc Snake parle à Campbell, et justement, lui, on n'a rien à faire de ces petits singes. Et il dirait, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain Sam qui pourrait faire le boulot à ma place? Voilà, bien évidemment, la référence aurait été comprise. Et puis enfin, pour conclure, dans Rainbow Six Vegas 2, il y a un succès à débloquer, où en faisant 5 tirs à la tête d'affilée avec une arme à silencieux, on a un succès qui s'appelle Mon nom est Sam. Oh,
que classe.
Génial.
Si ça, c'est pas du clin d'œil.
Absolument, je veux ce jeu tout de suite.
Absolument.
Je veux ce succès.
Génial. Voilà, je crois qu'on a été globalement assez complet, hein, sur la série et les 6 épisodes sortis désormais à ce jour sur la saga Splinter Cell. Est-ce que, moi je pense que collégialement il faudrait laisser le mot de la fin à Mimic. Hein,
exact.
Parce que toujours une petite information supplémentaire sur Splinter Cell, j'en suis persuadé, là il a une pression monstre, il a une espèce de rictus bizarre de merde.
Mais ça tombe bien parce que justement je voulais aborder un truc.
Voilà, et nous on va la partie pour une demi-heure.
Il faut que je te parle.
Il faut qu'on en parle. Donc c'est cette espèce effectivement de double école en fait, qui a vraiment une chacun son côté.
Les MGS.
Arrête de l'embêter avec ce micro.
Tiens le.
Voilà. Et donc voilà, moi on pourrait peut-être faire par exemple un petit tour de table pour voir à qui préfère. Oh,
un tour de table là qui est rouge.
Bah tout à fait, la plus célèbre de l'univers.
Bah je commence.
Et bah vas-y.
Vous voulez...
Allez. Je pense que le suspense est insoutenable pour Julien.
Moi très honnêtement, Splinter Cell le premier, j'avais été bluffé techniquement parlant, et puis l'infiltration, c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Oui, j'aime bien les Metal Gear, même si bien sûr ils sont imparfaits, et d'ailleurs je pense que j'en apprécie finalement plus les histoires et l'imbrication, comment Kojima joue avec nous finalement, plus que le gameplay.
L'imbrication.
J'aime beaucoup les Tenchu aussi. Et donc j'ai acheté effectivement ma Xbox avec Splinter Cell, c'est le jeu qui m'avait convaincu d'acheter la machine. Et franchement,
10 ans avant conviction.
Franchement, je me suis fait chier, je l'avoue. J'avais vraiment pas apprécié. Pour une raison simple, c'est que justement, j'aime le côté mathématique des Metal Gear, en tout cas de l'époque, où c'était certes basique, hein, mais il y avait des cônes de vision des ennemis.
Ouais.
Et puis après, à vous de jouer avec ça, et donc ça peut être surréaliste. Hein, vous pouvez être pas très loin de l'adversaire, il vous voit pas à partir du moment où vous pénétrez pas son champ de vision. Et dans Splinter Cell, c'est vrai que le côté très réaliste, mais que je trouve finalement aléatoire, mais comme l'est la vie, hein, d'être dans la nuit totale, avec la jauge au minimum de genre de visibilité. Le mec qui me passe devant, parfois il me voit pas, parfois il me voit, il me tire dessus, je suis mort. Je trouvais que la jouabilité est un peu lourde, et puis définitivement, le côté le découpage en mission, sans lien logique particulier, on est trimballé de Pétaouchnok à Tombouctou, avec genre fais ci, fais ça, point. bah, j'arrive pas à être un militaire con et y aller et faire ma mission et me casser et rien demander. Moi j'aime le côté un peu fantastique des Metal Gear et quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je serais plus Metal Gear, même si j'ai envie de tester le Conviction qui m'attire pas mal, justement pour le côté, l'espèce de mélange, le mariage entre action et, mm-hmm. et infiltration. Et
tu me diras
le
ce
fait que
penses.
J'ai été un peu déçu par le dernier Metal Gear aussi, quoi. On va mm-hmm. pas se cacher.
Julo.
Alors, Julo.
Non, bah, ouais, effectivement, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Simplement, je trouve que ça manque. En fait, Splinter Cell, je le considère pas comme une saga, contrairement à Metal Gear. Mm-hmm. Metal Gear qui te fait triper en fait en faisant revenir des personnages, en te faisant découvrir de nouveaux, en te faisant des twists scénaristiques tout le temps, etc. Et en te faisant adhérer à l'univers, tu t'attaches vraiment aux personnages, à l'histoire.
C'est une famille,
et tout.
Metal Gear.
C'est une vraie famille, ouais, comme tu dis. Et alors que dans Splinter Cell, effectivement, j'ai aucune attache particulière avec Sam Fisher. J'ai aucune attache avec son histoire, etc. Alors c'est vrai que c'était un peu mieux dans certains épisodes où c'était un peu plus profond et tout, mais je trouve qu'ils n'ont pas développé la saga en tant que telle, et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que en termes de gameplay, voilà, sans trop comparer l'un ou l'autre, je trouve qu'ils sont très différents, et j'ai vraiment surkiffé mes infiltrations dans Splinter Cell autant que j'ai kiffé des combats de boss dans Metal Gear, etc. Donc je dirais plutôt match nul peut-être à ce niveau-là, parce que j'ai vraiment eu des bonnes sensations. Et surtout là où Splinter a réussi et où Metal Gear a pas super réussi, c'est le mode en ligne de Pandora Tomorrow. Oui, oui. Donc voilà, mais sinon voilà, c'est vraiment en termes d'histoire que moi je fais gagner Metal Gear à plate couture, et en termes d'univers, quoi.
Dame, finalement.
Dame.
Oui, je trouve qu'il y a une âme dans Metal Gear.
Ah oui, oui, tout à fait. Ouais.
Dim Dam Doom, tu connais ?
Traz.
Dam Doom.
Alors moi, je suis pas du tout un expert comme vous de ces deux sagas, même si je pense que bon, j'ai joué un peu des deux. Hein, je sais pas, voilà. Mais je pense qu'effectivement, Metal Gear a quand même de très loin peut-être les meilleurs scénarios, enfin les mieux liés dans toute la saga, en tout cas. Ah bon, alors ouais. Que Splinter, c'est quand même assez décousu.
Mais tu préfères Splinter quand même, non ?
Mais Splinter, surtout pour sa jouabilité, ses vues de caméra. Moi, ouais. C'est vrai que dans Metal Gear, c'est un peu radical. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment plongé dedans. C'est parce que moi, les caméras, j'arrive pas, quoi. Je dis pas que c'est fondamentalement mal fait, mais moi, j'ai du mal à accrocher à ce gameplay. Donc,
c'est défaut rédhibitoire. Je me souviens à l'époque du début de Resident Evil, c'était pareil. T'avais des gens qui pouvaient absolument pas jouer.
Moi, j'en
faisais
partie, par exemple.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Moi, je suis passé à côté de Resident à cause de ça.
Et c'est vrai aussi qu'effectivement, comme tu disais, c'est quand même deux sagas un peu différentes. Tom Clancy, c'est un petit peu tout ce qui est vraiment technologique, tous les milliards de gadgets, etc. Metal Gear, c'est plus basé sur l'histoire, un peu parfois abracadabrantesque, mais bon.
Clairement, hein.
C'est ça qui est marrant aussi.
Voilà.
C'est ça que j'aime bien.
C'est ça qui est un petit peu drôle aussi, effectivement. Donc voilà. Mais Mimic, à toi la parole.
Tu parlais d'âme tout à l'heure, Julien, justement. Moi, ce que ils peuvent pas non plus s'éloigner. Enfin, sur les premiers épisodes, ils ne pouvaient pas s'éloigner non plus de ce côté un peu géopolitique et qu'il y a dans la saga, puisque ça, justement, ça vient de Tom Clancy. Donc, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'ils, justement, ils ont pu s'ouvrir un petit peu après sur les épisodes d'après. Il se trouve qu'ils sont un peu loupés au moment où ils ont ouvert sur Sam Fisher et le personnage même de Sam Fisher. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas une âme propre vraiment finalement à cette saga, parce que les personnages n'ont pas été assez développés et qu'ils n'avaient pas le choix au début non plus, enfin je pense, voilà. Sinon, moi à titre personnel, Pandora Tomorrow vraiment reste une expérience unique, alors, notamment pour le multi mais aussi pour le solo, et vraiment j'en garde un souvenir impérissable qui, je crois, n'a pas encore été égalé dans ce type de jeu. Vraiment.
Clairement.
Ouais, clairement. Ah, à l'époque, c'était exceptionnel. Je me rappelle, on passait des nuits à jouer en multi avec des gars du milieu.
Ça a nourri notre Eldorado autour du mode en ligne. Quand on se disait, non, voilà, le mode online, ça va nous réserver dans l'année qui vient, dans les 2 ans, 3 ans, etc.
Et finalement, derrière ça, ligne, sur console,
c'était le
soufflet qui se dégonfle.
Tout à fait, on était super
déçus. Il y a eu Chouchou Rocket. Et Splinter Cell.
Mais oui, mais attends, mais tu rigoles, mais c'était deux expériences typiquement console en ligne
et qui marchaient super bien.
Et voilà, alors, qui n'avaient pas sur PC et tout.
T'as oublié
Fantasy
Star Online, hein, qui est ma première grande expérience en ligne.
J'étais avec toi là aussi d'ailleurs.
Ah,
tu te rappelles qu'on a arrêté d'un coup à Fantasy Star?
J'ai l'impression qu'on digresse.
Qu'on en reparle.
Non, c'est des bugs
de l'an 2000.
Et du coup, Raon, tu as le.
Moi j'aime bien les deux, voilà.
Eh bien, rendez-vous.
Non, mais c'est vrai. Metal Gear pour le scénar, et puis tous ces moments exceptionnels qui sont kojimesques, les fameux moments où il met le joueur en abîme, où il joue avec nous, etc., d'une manière qu'il n'y a que Kojima qui fait. Et Splinter, plus pour l'aspect effectivement libre construction du gameplay, cet aspect plus libre quelque part d'aborder une situation. Voilà.
Très bien. En tout cas, c'est une série particulièrement riche et qui puis n'est pas prête de s'arrêter, hein, vu le succès qu'elle rencontre et l'attente qu'il y a autour de ce Splinter Cell Conviction. Mm-hmm. On le rappelle, hein, en exclusivité console, pour le moment en tout cas sur Xbox 360, et il sortira dans quelques semaines. Sur PC, il a été un petit peu retardé, et visiblement pas à cause des...
DRM,
voilà, mais à cause de petits problèmes de débugage qui ont été un petit peu plus longs que sur la version Xbox 360. Voilà, ainsi s'achève donc cette saga Splinter Cell. À vous maintenant dans les forums, hein, de parler de vos expériences de jeu, que ce soit en multi ou en solo. Ce que vous pensez de cette série, en la comparant ou pas, elle se suffit à elle-même, il est vrai. Et en tout cas, de voir ce qui vous a vraiment marqué dans l'histoire de Sam Fisher et compagnie. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast, forcément. D'ici là, vous le savez, bah, portez-vous bien et surtout
jouez bien.
Ciao,
ciao.
Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour ce nouveau podcast exceptionnel, le numéro 138, avec aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Splinter Cell Conviction, eh bien un retour sur la saga Splinter Cell tout entière, hein, cette saga que l'on doit à la base avec tous ces bouquins fabuleux.
Yo, c'est un classique. Mais merde, c'était bien, pourquoi t'as coupé? C'était foutu. Oh là là là.